Bon midi tout le monde. Merci d'être avec nous à l'émission Nageuse. Il est précisément midi une minute. Évidemment, on va jaser aujourd'hui un petit peu du match du Canadien de Montréal. 418-971-1021. Êtes-vous frustré? Brendan Gallagher patinait avec les réservistes. On n'aura pas notre Garley sur la glace à soir, Mathias. Voyons donc. Tu parles d'un manque de respect envers un vétéran du CH. Un homme qui a tout donné pour l'organisation.
Mais sachant que ça aurait potentiellement été son dernier match, qui aurait pu apporter une belle énergie ce soir, qu'un peu de nouveau, ça aurait fait du bien aussi.
C'est notre Claude Lemieux!
C'est une décision qui est discutable.
Mais, hein, tout ça pour des Vélénos, des Dac, des Texiers.
Tu sais, je demande aux auditeurs, vous, est-ce que vous auriez fait rentrer Brendan Gallagher
Exactement.
Dans la formation? Parce que, pour moi... Ça semble être quelque chose de quand même évident.
Ouais. C'est un coach de Pee-Wee, Martin Saint-Louis.
Bon, non, mais là, exagère pas, Jeff, quand même. Là, il a fait un très beau travail cette
saison. Ben oui, ouais, puis dans les séries, là. Dans les séries, il a très bien fait cela. Pee-Wee Saint-Louis! Bon, OK, c'est dit. C'est une blague. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Étienne-Alexandre Beauregard qui va venir nous parler. Malheureusement, au Canada, on entre dans une récession technique, donc rien de positif en termes d'économie pour notre pays, notre province. Puis on va aussi revenir sur cette semaine difficile de Christine Fréchette. Alex Laramé, on va analyser le match 5 ce soir. Canadien de Montréal contre Hurricanes de la Caroline. Y croyez-vous encore? 418-971-1021. Et Gab Marino va être avec nous en fin de show. Évidemment, il anime au Centre Vidéotron ce soir ce cinquième match. Entre le Canadien et le Hurricanes, on y va plusieurs au Centre Vidéotron pour remplir la place. Je pense que ça vaut la peine de donner un peu d'amour à nos Canadiens. Et Gab Marino, samedi, va être au Parc Jean-Drapeau pour le spectacle de Luke Combs. Hey, Luke Combs fait deux fois le Parc Jean-Drapeau, ce soir et samedi soir.
Ça va être tout qu'il y a des shows.
Ah oui, c'est un phénomène extraordinaire de la musique New Country. Donc, on vous en parle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Claude André qui dit « Ça aurait pris Garley. » Crème, il avait compté en plus à son premier match contre Tampa. Mais hein, je suis très d'accord avec toi. Mathias, circulation avant de faire un peu de météo?
Oui, parce qu'on est vendredi, ça commence plus tôt. Puis en plus, avec les travaux partout à travers la ville de Québec et de Lévis, ben, ça crée plus de ralentissements qu'habituellement. Je commence justement sur le gros ralentissement actuellement, 20 direction ouest. On sait dans le secteur de Taniata, il y a présentement des travaux qui se font notamment pour élargir l'autoroute 20. Mm-hmm. Eh bien, il y a un ralentissement à partir de Taniata en direction ouest et qui remonte jusqu'à Président Kennedy, malgré le fait qu'on est midi en ce moment. Henri IV en direction sud, c'est à hauteur de chemin Sainte-Foy qui ralentit en raison des travaux également. Capitale en direction est, à hauteur de Robert Bourassa, léger ralentissement. Et Laurentienne, direction sud pour prendre Capitale. C'est au rouge également, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Aujourd'hui au programme, 13 degrés et de la pluie, malheureusement. Pluie qui va débuter tôt cet après-midi. Des vents qui peuvent aller jusqu'à 40 km/h. La pluie va cesser ce soir. Ça va demeurer nuageux, mais demain, très belle journée, généralement ensoleillée à 17 degrés. 15 degrés, 60% de possibilité d'averse pour dimanche. Mathias, avant qu'on discute de plusieurs sujets en entrée de jeu, on va se faire un genre de caucus, mais moi et toi ensemble, en l'absence d'Antonine Iaccarini, les vendredis. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité en manchette?
Oui, du côté de Bowl, c'est Kevin Deblois qui a reçu son verdict. Aujourd'hui, il a été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe par le jury. Je vous ramène en 2022. C'est du côté de Saint-Bernard que le corps de la mère de 36 ans a été retrouvé. Selon l'autopsie, elle aurait été tuée par balle et par la suite, son corps aurait été brûlé pour justement dissimuler tout. L'homme qui est donc reconnu par le jury pour tous ses chefs d'accusation, soit meurtre au deuxième degré, outrage au cadavre et incendie criminel. L'homme qui sera donc condamné à prison à vie. Le juge devra déterminer à partir de quand il aura accès à la libération conditionnelle qui devrait se situer entre 10 et 25 ans.
Moi, je vais te donner mon opinion là-dessus. C'est une extraordinaire nouvelle. Puis je t'explique pourquoi. Le gars a refusé de témoigner. Fait que, tu sais, moi, là, quand tu refuses de témoigner, puis là, t'essayes de te baser sur des preuves circonstancielles pour dire c'est pas moi. Tu l'as pas fait, crime. T'en vas t'asseoir dans le box des accusés, puis tu le dis.
Oh oui, puis écoute, c'est un jugement sous jury.
Exactement.
Ça a été reconnu. Justice a été faite, même 4 ans après le drame. T'en as parlé, Jeff, en entrée de show. Le Canada qui est en récession technique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le PIB réel, donc ça, c'est comment on mesure la croissance économique du pays sans les mesures inflationnistes. Donc, on enlève tout ce qui est inflation, seulement la croissance réelle. Eh bien, ça fait deux trimestres consécutifs qu'on est en baisse du PIB réel, ce qui veut dire, au sens technique, qu'on est en récession. Mais là, je tiens à dire, c'est pas une... on va pouvoir le traiter un peu plus tard, mais plusieurs économistes disent que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en récession pour vrai. Pour le mois d'avril, on a eu une montée du PIB réel. On va traiter ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est sûr que la situation avec les tarifs devient préoccupante. On va suivre ça de près au cours des prochains mois. Et je termine avec Donald Trump parce qu'il serait présentement dans la Situation Room pour rendre sa décision finale concernant un possible accord avec l'Iran. On va suivre ça de près, là, mais on sait, hier, on entendait des rumeurs comme quoi un cadre d'accord serait en place et la seule chose qu'on attendrait, c'est la signature finale de Donald Trump. Bien, normalement, la décision devrait être rendue aujourd'hui.
OK, on se met dedans, gang!
T'sais, on est des bons joueurs de hockey, mais je pense qu'on a encore des meilleurs, bien meilleures personnes que des joueurs de hockey. Je pense que ça part beaucoup avec ça.
Sur le flanc gauche, passe au centre, reçu, le tir, quel arrêt! Quel arrêt de
Messi! Ben, je parlais à ma mère beaucoup durant l'overtime. Et je l'ai remercié.
Merci, l'arrêt partiel de Vasilevski. Oh, la main démontée, et le but!
Hey, c'est pas fini, la gang! Le Canadien peut encore l'emporter ce soir face aux Hurricanes de la Caroline. Mathias, c'est un jeune homme. T'as quoi, 23, 24 ans?
22 ans.
22 ans. Moi, j'étais un gars de 46 ans, puis mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'étais enfant, puis que mon père me disait « Sais-tu quoi? C'est pas grave si t'as de l'école demain. Viens écouter Nordique avec moi sur le divan. » Puis j'ai vu Peter Stastny éliminer les Whalers d'Hartford en 1986 avec un but en prolongation. 86, c'est pas vrai, c'est Claude Lemieux en 1987, devrais-je dire, avec un but en prolongation. Enfin, les Whalers se sont fait éliminer par les deux équipes de la province de Québec deux années en ligne en prolongation, en match 7. Claude Lemieux et en match 6, Peter Stastny. Puis là, j'ai vu tous ces beaux moments-là de hockey, puis j'étais content, puis je tripais. Mais là, Mathias, puis ça nous prend nos auditeurs aussi au 418-971-1001 pour réagir là-dessus. La police du fun vient de passer, vierge.
Puis tu t'en souviens encore, ça crée
ben
des
oui,
souvenirs incroyables.
J'ai 46 ans, 87, ça veut dire que j'avais 8 ans, t'imagines? Mais là, la police du fun est passée.
Ouais.
On n'a pas le droit. Nos jeunes n'ont pas le droit de s'amuser avec la province en entier. Hey, t'es un mauvais parent si t'as pris ton jeune un mercredi soir puis t'as dit, sais-tu quoi? On va aller au centre Vidéotron triper avec 15 000 fans dans le centre Vidéotron pour regarder le Canadien. T'es un mauvais parent. T'es un mauvais parent si, comme mon père, t'as dit, hey, on s'en sac, tu te coucheras 11h15, check l'overtime de la game 7 contre les Sabres de Buffalo avec moi parce que ça passe ou ça casse, là. Et ça, c'est qui dit ça? C'est le réseau scolaire. C'est des enseignants.
Oui, oui, oui. Puis j'aimerais avoir votre avis au 88-971-1021. Probablement plusieurs d'entre vous êtes parents. Probablement
ben oui.
Plusieurs d'entre vous, vous faites des triples avec vos enfants. Puis on sait... C'est à 20h les parties, ça commence à être tard. Ben là, un article du Journal de Québec nous rapportait que de plus en plus, on entend des enseignants dire que les enfants sont fatigués en raison des séries. Notamment dans une école primaire de la Rive-Sud, du côté de Montréal. C'est une enseignante qui a cru bon d'envoyer une note aux parents.
Hey, une note aux parents!
Je vous lis la note en question. Plusieurs élèves semblent fatigués. Surtout le lendemain des parties des Canadiens. Bien que cela soit excitant, ils ne devraient pas se coucher plus tard que la première période afin d'être en forme. C'est ce qu'on pouvait lire dans la lettre en question.
La police du fun, toi, Mathias. Nos enfants ont plus le droit de triper. La province de Québec est canadienne. Ça nous fait enfin passer un beau moment d'unité, tout le monde ensemble, positif. Puis la police du fun débarque, les enseignants qui... C'est même enseignant-là qui, en passant, et j'adore nos enseignants, mais je veux juste dire que... Il y a plusieurs enseignants qu'eux autres, quand ils sont fatigués, vont passer un petit film. Ils vont se reposer.
Oui.
Oui. Mais là, nos enfants, eux autres, n'ont pas le droit.
Non, mais je tiens à dire, là, il y a certains enseignants aussi qui disaient que ça créait une belle ambiance, que les enfants étaient de bonne humeur, tout. Chez certains enseignants, il n'y a aucun problème. Puis s'il y en a certains d'entre vous qui est enseignant, n'hésitez pas à nous communiquer comment vous vivez ça. Mais des enseignants qui écrivent aux parents pour dire « Hey, des enfants qui ont trop de fun, les enfants qui trippent sur les séries du Canadien présentement, là, relaxez un peu, envoyez-les faire dodo un peu plus tôt. C'est important à l'école. Ouais. Mais Seigneur, on vit un moment incroyable au Québec actuellement. On peut-tu laisser nos enfants le vivre aussi? »
Exactement. Puis un moment incroyable de société, mais aussi un moment incroyable. Qu'est-ce que je t'ai dit d'entrée de jeu? Je t'ai dit, hey, je me souviens, moi, quand mon père me disait, c'est des moments père-fils qui restent marqués à vie. Hey, là, je me souviens, là, après la deuxième période, mon père, il me disait, hey, va chercher ton oreiller puis ta doudou, si jamais faut que tu t'endormes. Puis des fois, je m'endormais. Mais d'autres fois, comme Peter Stachny, je l'ai vu le but parce que le match était tellement excitant. Hey, ce match-là, les Nordiques perdaient 4-0, ils ont gagné 5-4.
Ah non, tu t'en souviens, maudit. T'sais,
donc, c'est des moments comme ça marquants où aujourd'hui, à 46 ans, je vais être assis dans la cuisine avec mes parents. Je vais dire à mon père, t'en souviens-tu en 87, Stachny? Ah, c'est fixe, c'était hot. Même si mon père, c'est un partisan du Canadien, il va me dire, ah oui, crime que c'était hot. T'sais. Puis mes enfants, j'ai jamais hésité à faire ça. Puis textez-nous, les parents, il y a plusieurs textos qui rentrent, 418-971-101. J'ai jamais hésité à faire ça avec mes enfants, moi. J'ai jamais hésité à dire, « Hey, écoute, c'est ton équipe de foot préférée qui joue à soir, on est dimanche soir. Avoir, man. » Même que des fois, j'installais des matelas, moi, dans le salon. Puis les gars s'installaient ces matelas. Puis là, à un moment donné, ils s'endormaient. Ou ils s'endormaient pas, mais c'est pas grave. J'ai, hey, hey, c'est Super Bowl, par exemple. C'est Super Bowl, mes gars trippent sur le foot. Il ne pas coucher à demi,
ben non.
Là.
Hey,
ben,
on aime
Super Bowl. Ben oui.
Même moi, des fois, je m'endors devant les games du Canadien. Mais maudit, je trippe à les écouter, j'ai du fun. Ben, je reste devant la game, puis je m'endormirai au pire, puis je me réveillerai, puis je serai un peu plus fatigué le matin. Je pense que peu importe l'auditeur qui nous écoute, on est plus fatigué. Ben, depuis que les games sont à 20h, mais
c'est
maudit,
clair.
C'est un trip.
Ben, c'est ça, on passera pas à côté de ça. Louis qui écrit, hey, sérieusement, hey, Gilbert, gère ta fougère. Éric qui dit, de l'ingérence familiale, François Legault sort de ce corps.
Ah, non, mais ça ressort beaucoup d'un autre auditeur qui nous écrit un enseignant qui commence à dire comment gérer à la maison. Bon, pas sûr qu'il aimerait qu'on lui dise comment gérer sa classe. Puis j'étais un peu d'accord de ce côté-là. Là. Pour moi, un enseignant qui écrit aux parents, là, votre enfant est fatigué, vous devez le coucher après la première période. Écoute, pour les enseignants, ça doit être plus difficile. On sait que gérer des enfants fatigués, c'est difficile, mais ça fait partie de ton travail.
Ben, c'est ça, exactement.
On va pas empêcher des enfants de triper puis se faire des souvenirs pour le restant de leur vie pour « Ah, là, écoute, j'ai de la misère à gérer ton enfant parce qu'il se couche tard. »
Non,
là, les enfants trippent, laissez-les triper. Commencez pas à dire aux parents comment gérer. Y a-tu de quoi de fâchant pour un parent de te faire dire « Hey, tu gères pas bien ton enfant, tu t'en occupes pas bien. » C'est important pour les parents d'avoir une rigueur, mais faut aussi laisser du fun à l'enfant.
Vraiment, d'autres excellents textos qui sont rentrés. Fatigués pour un moment versus des souvenirs pour des années. Hey, maison, tes enfants, ta décision. Il me semble que ça s'arrête là. Très d'accord. Alex qui nous écrit, je suis bien d'accord avec vous, mais pas ma blonde. Je te laisse gérer ta maison, Alex. Également, un autre texto qui est rentré avec, hey, l'hockey, c'est notre sport national. Pour une fois qu'on est unis comme ça, profitons-en, c'est tellement vrai. Bref, merci beaucoup. Les professeurs ont juste à porter plainte à la Ligue nationale et Gary Bettman pour mettre les matchs à 20h. J'adore. Mais merci, puis tu sais, ça ressort des fois. Moi, je me dis, coudon, je suis un parent trop soft avec ses enfants qui se dit, hey, moi, ces moments-là, il n'est pas question que mes kids le manquent. Là, évidemment, à 16 et 18 ans, vous comprendrez que j'ai pas à gérer ça. Mais même quand il était plus jeune, je me disais, hey, c'est des moments. On y va. Il y a un parent aussi qui a écrit ça, c'était super intéressant. Même aujourd'hui, j'ai kidnappé mon enfant pour aller acheter des livres ensemble, juste parce que c'est une bonne expérience, puis anyway, les examens sont finis. C'est vrai, ça?
Pourquoi pas?
Hey, quelle belle expérience, le salon du livre, aller acheter des livres, faire des activités culturelles aussi avec nos enfants. Bref, être avec nos enfants, créer des moments, des souvenirs.
Puis ça revient, encore une fois, entre les mains du parent. Moi, je pense que c'est important de rappeler la décision de comment on prend soin de notre enfant. C'est entre les mains du parent. Si l'enfant décide, mon enfant va se coucher plus tard, qu'il se couche plus tard. On a un auditeur ici qui rappelle, bon, faut préciser que c'est la période des examens de fin d'année, par contre. Puis je comprends ça. Je comprends entièrement ça. Sauf qu'un enfant va faire ses examens, puis il est capable de bien faire ses examens, même s'il est fatigué. Il faut prendre en compte son résultat. Puis mettons là, qu'on dit que l'enfant réussit un peu moins bien son examen. Mm-hmm. Réussit quand même. La réussite, c'est important.
Bon, oui.
Mais réussit moins bien. Peut-être 5-10 % de moins que ce qu'il aurait eu. Sur le long terme, là, à 30 ans, ce 5 %-là, vas-tu vraiment avoir impacté sa vie?
Non.
Versus le souvenir de lui à 8 ans qui tripe devant le Canadien qui réussit à gagner un match 7 contre Buffalo ou qui réussit à sortir une grosse performance contre les Hurricanes.
Exactement.
En 2026.
Oui, puis tu sais, en tant que parent, on a tous nos limites. Là. Moi, j'ai toujours dit à mes gars, si vous voulez pas, je commence à gérer vos devoirs puis vos leçons. Puis là, à partir du moment où il est à peu près en 5e année, là... Puis si vous voulez pas que je commence à vous mettre vraiment des heures strictes de coucher puis des heures strictes de jeux vidéo puis tout ça, ramène-moi des résultats scolaires
oui.
selon ta capacité. Parce que moi, j'ai un Elliot qui est assis dans un cours à école qui a 95. Puis tu sais, j'ai un Edouard qui travaille très fort pour avoir des bonnes notes. Mais j'ai dit, ramène-moi les résultats scolaires. À partir du moment où j'ai ça, tu vas continuer à avoir ta liberté, ta latitude. La journée où j'ai pas ça en tant que parent... Ben là, il va falloir que je te guide différemment.
Ça, c'est un bon point que tu soulignes. Si l'enfant ne force pas aucun effort, fait rien, bon, là, peut-être que le parent peut se dire, hey, comme conséquence, on va coucher l'enfant plus tôt. Mais non, on parle même pas de ça. On parle vraiment juste d'un enseignant qui a demandé concrètement aux parents de dire, hey, couchez votre enfant plus tôt, s'il vous plaît. Arrêtez de le faire écouter le Canadien.
Mm-hmm. En effet.
Puis par texto, ça revient là, beaucoup. Là,
oh,
ce qui revient beaucoup par texto, c'est que l'enseignant qui se mêle de ses affaires, c'est aux parents de décider.
En plein ça. On a un excellent texto qui est rentré, par contre, d'une personne justement qui travaille dans l'enseignement, puis qui a 4 enfants et qui écoute les matchs avec ses enfants. Mais le problème, c'est pas qu'ils se couchent tard. Le problème est que les parents viennent chialer quand leur enfant a une fiche due à son mauvais comportement qui est due à cette fatigue. Donc, en effet. T'sais, si vous êtes parent puis vous décidez de les garder tard, ben il faut que vous vivez des conséquences aussi qui peuvent arriver à l'école. Comme tu disais tantôt, un moins bon résultat ou un comportement plus
déficient. Moi, c'est ça. Puis honnêtement, ces parents-là, en général, ces parents-là qui chialent après les enseignants, tu sais, d'un bord, on dit que les enseignants laissent les parents faire leur travail. Mm-hmm. Ça vaut de l'autre côté aussi que les parents laissent les enseignants faire leur travail. Si ton enfant a un mauvais comportement, si ton enfant a un moins bon résultat, puis tout ça se résulte directement de ta décision, ben laisse l'enseignant faire son travail puis faire sa discipline. Ne va pas chialer à l'enseignant parce que « Oh, mon enfant est parfait. Mm-hmm. »
En passant, c'est une enseignante sur la Rive-Sud et un enseignant de Drummondville là, qui ont parlé. Là, donc, juste pour bien le clarifier, il y avait des gens qui nous le demandaient. Et je salue Martin qui nous dit « C'est le dernier match. Ensuite, ils vont pouvoir se coucher plus tôt. » Martin qui est vraiment un Canadien haters. J'étais dans son équipe avant, mais depuis que je suis dans votre équipe, hein, on est 0-3.
Tu devrais peut-être retourner de l'autre bord. Là. C'est mon combat depuis le début de la semaine, ça.
Exactement. Hey, je vois que vous êtes en feu par texto, donc je veux vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Moi, hier, vraiment, le poil m'a frisé sur les bras lorsque j'ai lu que Guy Turcotte, cet ex-médecin qui a assassiné ses enfants il y a de cela 17 ans en les poignardant de 46 coups de couteau, demande, après 10 ans d'être entré au pénitencier, de pouvoir avoir une certaine libération conditionnelle. Là, on ne sait pas encore exactement ce qu'il va demander. Est-ce qu'il va demander d'être dans une maison de transition? Est-ce qu'il va demander des permissions de sortie? Mais bref, ce médecin-là, qui a assassiné froidement ses enfants de 46 coups de couteau, qui au départ avait été reconnu non criminellement responsable, ça a été la pire soirée de ma vie quand ce verdict-là était tombé, qui l'a maintenant... Il y a eu un deuxième procès et il a été reconnu coupable, qu'il l'a fait pour faire du mal à son ex-conjointe Isabelle Gascon, qui avait décidé de le laisser parce qu'elle ne l'aimait plus. Et je le rappelle, qu'il a poignardé ses enfants de 46 coups de couteau 17 ans plus tard et 10 ans plus tard seulement d'emprisonnement, demande une libération conditionnelle. Je vous fais entendre Isabelle Gascon, son ex-conjointe. Ça date du 24 octobre 2022, à Tout le monde en parle, où elle parlait qu'elle va craindre pour toujours son ex-conjoint, Guy Turcotte.
Va toujours craindre. Toujours. Pourquoi? Il y a des confidentialités, puis je m'en fous un peu, mais dans le sens que, tu sais, les progrès que quelqu'un fait, on est, tu sais, si on reçoit une lettre ou une information ou à quel endroit il est gardé, ouais. C'est gardé à quelque part secret, ce que je déplore parce que je me dis, il a traumatisé tout le monde, on devrait savoir c'est quoi le cheminement. Puis si par miracle, oh, tout va bien 6 mois avant sa sortie, je pense que ça pourrait avoir un... Tu sais, il peut avoir un gain secondaire.
Guy Turcotte me prouve avec sa demande de libération conditionnelle après 10 ans qu'il n'a pas fait le travail sur lui recommandé parce que sinon, il ne serait pas aussi narcissique. Il penserait à ses enfants qui a assassiné puis il dirait, savez-vous quoi? M'en rester en prison parce que c'est ce que je mérite. J'ai tué mon propre sang parce que j'étais trop omnibulé par ma personne et mon malheur d'avoir été laissé par mon ex-conjointe. Vous en pensez quoi, 418-971-102?
Puis pour vrai, on vient de parler d'un sujet où on était presque unanime. Je pense que sur celui-là, c'est pas mal unanimité. Là.
C'est clair.
Cet homme-là, après 17 ans, ne mérite pas de pouvoir sortir. Puis c'est complètement affreux ce qu'il a commis comme acte. Tu sais... Je comprends notre système judiciaire, mais c'est dans des cas comme celui-là qu'on se dit « Caline, qu'on a des failles. »
Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi.
Après 17 ans, cet homme-là va pouvoir demander des libérations conditionnelles, de pouvoir sortir de prison, potentiellement retourner voir de la famille, des proches, s'il y en a encore, bien honnêtement. Là, ce qui ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait plus personne qui veut avoir affaire à une personne de ce type-là. De base... Il avait été reconnu non-responsabilité criminelle.
Oui.
Non criminellement
responsable.
Parce qu'on
disait que c'était une folie passagère. Là.
Ce dossier-là, de base, était ridicule à cette époque-là.
Oui.
C'était une erreur fatale.
Clairement.
Là, de savoir qu'il va peut-être pouvoir ressortir par moment... Colin, je veux dire, il va peut-être falloir revoir, pour certains cas, notre façon de faire au Québec.
Clairement, ses enfants n'auront pas la chance de vivre une vie paisible, de vivre une vie remplie d'amour auprès de leur mère. Je regardais hier les médias sociaux d'Isabelle Gascon. À chaque année, à chaque anniversaire de ses enfants, elle leur souhaite bonne fête. Elle remet des photos. Elle dit à quel point il leur manque. Elle est très courageuse parce qu'elle a refait sa vie avec un autre homme et elle a même eu un autre enfant.
Ah, ouais.
Donc, je la salue. J'ai écouté son témoignage qu'elle avait fait. Tout le monde en parle parce qu'Isabelle Gascon ne sort pas là, dans les médias. C'est une des seules entrevues qu'elle a données en 17 ans depuis la mort
de
ses enfants.
C'est comprenable.
Et c'est très comprenable. Puis vois-tu, c'est ce qu'on a par texto. Puis ici, j'avais un bon texto, je le retrouve, qui disait que... C'est ça. Le petit avait des dizaines de blessures défensives. Oh. Donc, son garçon de 6 ans à l'époque, 5 ou 6 ans, avait tenté de se protéger, avait tenté de se défendre. Puis même, c'était sorti, ça n'avait pas été reconnu comme une preuve valable parce que c'était une conversation entre Guy Turcotte. Et si je me souviens bien, c'était son deuxième procès. Donc, il avait été emprisonné par mesure préventive. Mais un prisonnier qui était avec lui dans la même aile était venu témoigner pour dire « Il m'a dit qu'il se souvient que son garçon lui a dit « Papa, papa, arrête, tu me fais mal ». Et il a continué 46 coups de couteau. C'est très unanime. Les gens disent que cette personne-là devrait rester en prison. Il y a un ancien agent correctionnel qui nous a écrit pour dire « Ouais, vous savez, le risque de récidive est nul, donc je comprends la démarche. » En effet, il n'y aura pas de chance de retuer ses propres enfants. Il n'y en a plus. Il les a tués. Mais en tant que société, il faut protéger nos enfants. Puis la meilleure façon de les protéger, c'est de donner des peines irréversibles à des salauds comme Guy Turcotte qui tuent leurs propres enfants.
Je comprends le point qu'il y a peu de risques de récidive, mais justement, là est mon point. Est-ce que ça devrait être la seule condition pour une libération conditionnelle? Est-ce que la juge aurait dû mettre un peu plus tard que 17 ans aussi? La question
c'est
se pose.
C'est 10 ans, oublie pas, parce que ça fait 17 ans l'événement, mais seulement 10 ans qu'il a été reconnu coupable.
Ouais, ben c'est qui était incarcéré depuis 2009, là, si je me trompe pas. Là, donc, il a fait son 17 ans par défaut. Comment un être humain peut commettre de tels actes? Je pense qu'on est plusieurs à jamais comprendre ça.
C'est clair.
Comment la société peut se permettre de libérer après 17 ans potentiellement quelqu'un qui a commis des actes comme ça, ça, c'est une autre question à se poser. Puis c'est une autre question, je pense, qu'on n'est pas beaucoup à avoir une réponse logique à donner.
Exactement. T'es, vois-tu, excellent point ici qu'on a par texto. Ici, attends, je vais le retrouver parce que là, les gens textent plusieurs fois dans le même paragraphe. Mais c'est pas une question de risque de récidive, c'est une question de peine exemplaire.
Exact.
Et je suis tellement d'accord avec ceci. Des gens qui disaient, hey, ça arrivait à des enfants de politiciens. Est-ce que le politicien dirait, ouais, je crois à la réhabilitation, moi? On va le laisser sortir, mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe. Non, en effet. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment venir changer les lois. Et il faut faire en sorte que des gens comme ça n'aient pas de chance de sortir avant au moins 25-30 ans. Mais moi, je te dirais qu'ils n'ont pas de chance de sortir pantoute. Tu sais, il y a plusieurs textos qui rentrent très, avec un langage très coloré sur Guy Turcotte. Mais je vous comprends parce que moi, ça serait pour rester en prison.
Le genre de langage qu'on a tous en tête, mais que.
Exactement, mais que vous comprendrez qu'à la radio, je n'utiliserai pas. Là. Mais vraiment, c'est ce qu'il mérite. Alors, j'espère que les libérations conditionnelles vont faire leur travail puis qu'ils ne permettront pas à Guy Turcotte de revoir l'ombre de la lumière dans la prochaine année, à tout le moins, et ça pour plusieurs années, parce que c'est épouvantable ce qu'il a fait, c'est épouvantable ce qu'il a fait vivre à son ex, mais surtout, être tué ses propres enfants. Puis c'est après inhumain. Ça, dire « Ouais, ça serait bon que je sorte de prison, hein? T'as-tu pas travaillé sur toi? »
Inacceptable.
Aucun remords. Zéro. C'était de la faute de son ex.
Ah, écoute.
Hey, elle l'avait trompé.
Il n'y a pas de mots suffisants pour décrire cette situation.
Elle l'avait trompé avec son entraîneur physique personnel. Potilou.
Désespérant.
Tu
veux qu'on se fasse un peu
ah,
de fun? Hein?
On se fait du fun pour finir ce micro-là, ouais, je suis d'accord.
Avant de passer à la pause, là, on va avoir un peu de fun.
Attends, je pense que je sais de qui tu vas me parler,
vas-y.
On écoute.
Où est l'argent?
Où est l'argent? Je viens de le dire, il y a des centaines de milliers qui ont été envoyés à l'autre.
Ouais.
Puis il y en a des centaines de
vous
milliers qui sont partis par
les l'argent des clients avant de les avoir livrés, ça s'appellerait pas une fraude de Ponzi, ça?
T'attendais quand pour dire à tes clients que t'as annulé tes conteneurs? T'as annulé tes commandes, mon homme, après avoir payé le frais de transport de 250 000. T'as annulé les conteneurs après avoir payé les frais de transport, puis tu le savais que la marchandise n'arrivait pas, puis tu continues à promettre des remboursements à tes fucking clients, man. Boum!
Montre-moi la preuve que j'ai annulé mes
conteneurs. J'ai rien à te montrer, man. T'as juste à faire ta job sur le sens du monde.
C'est dans les mains de la police.
C'est toi qui as de quoi prouver envers tes clients, man. Moi, j'ai rien à te prouver. Rembourse ton monde, man. Trouve-là la crise d'argent, puis trouve une solution.
Ça, c'est l'été dernier. Là.
Ouais, exactement. Conférence de presse à l'extérieur, devant des clients. C'est le propriétaire de Liquidation Extrême, Éric Barrette, me semble qu'il s'appelle.
Éric Barrette,
c'est
Liquidation
ça.
Extrême.
Puis on voit que, tu sais, on est vraiment en confiance, tu sais, parce que je sais pas où l'argent, mais là, lui, il a eu raison. Puis, tu sais, on voit que c'est un gars, comment je pourrais bien dire, en qui j'aurais confiance.
Ben oui,
100%. D'un, pour me partir une business, de
fiable.
Deux, pour gérer ma business. Puis de trois, pour gérer mon compte en banque aussi.
Un gars qui a semblé honnête dans toutes ses démarches.
Vraiment.
Avec son entreprise Liquidation Extrême.
Ouais,
là.
Un gars, attends, là, fait faillite, mais il avait ses grosses chaînes dans le cou, sa grosse BMW, ses dents en or,
ouais, pis,
ses bagues.
Tu sais, je vous ramène à l'été passé où plusieurs clients avaient dépensé de l'argent puis n'avaient pas reçu leurs produits. Puis là, ils ne voulaient pas les rembourser puis ils disaient que c'était pas de sa faute. Là, il y a beaucoup de poursuites pour frais impayés, justement, envers Liquidation Extrême. Malgré ça, la semaine dernière, puis c'est rapporté dans le Journal de Québec lors d'une longue vidéo en direct, le 22 mai dernier, Éric Barrette qui a annoncé l'arrivée prochaine de Liquidation Extrême 2.0.
Wouhou! Hey, dis-moi l'adresse, je m'en vais acheter!
On va avoir un nouveau propriétaire qui va rester confidentiel.
Ah, OK, confidentiel?
Il dit
ça me rassure.
Il va rester là. Comme s'il était le patron,
hein?
Mais qu'il ne va pas l'être.
Éric Barrette va être encore le patron, mais ça va donc bien. Ça me rassure vraiment. Honnêtement, Liquidation extrême 2.0, j'ai confiance.
Il dit que si le gouvernement n'avait pas, lui avait pas pété dans la face et si les haters avaient lâché un peu, on n'en serait pas là concernant son entreprise Liquidation extrême. Là. Il a annoncé tout ça la veille, de notamment l'encamp du contrôle de justice durant lequel plusieurs de ses biens ont été liquidés pour rembourser ses dettes de plusieurs millions de dollars à Revenu Québec. On a notamment liquidé ses chaînes et bracelets en or du propriétaire, ses souliers Louis Vuitton ou encore sa voiture BMW XM d'une valeur à neuf avoisinant les 250 000 $. Donc,
okay.
L'homme en question avait tout ça, mais n'avait pas d'argent suffisant pour rembourser les différentes personnes qui lui avaient donné de l'argent.
Mais il va gérer le nouveau Liquidation Extrême 2.0.
Mais il va pas être propriétaire.
Non, mais ça va être comme c'est lui qui est le boss.
Exact. C'est ça lui le boss, mais c'est pas lui le boss.
C'est full rassurant. Les auditeurs ont l'air très rassurés par texto également. Continuez de nous écrire au 418-971-1021. Il y a une auditrice qui écrit « Ouais, il a vraiment l'air sain d'esprit. Je pense qu'il est capable de gérer une business. » On comprend que c'est du sarcasme.
Au cours évidemment. De la dernière année, on parle de plusieurs dizaines de poursuites civiles allant de quelques centaines à quelques millions de dollars, à quelques centaines de milliers, à quelques millions de dollars auxquels il faisait face.
Ben rien là, ça.
Ça
les entrepreneurs, là, ils se pètent toute la gueule à un moment donné une fois, là.
Ça arrive.
Comment ça, t'es sur le dos de barrette?
Voyons, c'est pas de sa faute. Il a dit, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes fournisseurs. Il a répété.
C'est ça.
On va s'entendre.
Elle est excellente.
C'est un peu dur à croire.
Fred qui écrit, on pourrait faire une pub avec un sous-marin pour liquidation.
Alors, pour vrai.
Ouais, c'est du changement, mon Fred. Du changement.
Pour de vrai, puis pour rajouter à la joke, je vous rappelle que sa BMW a été vendue. Par contre, présentement, il fait face aussi à une poursuite par BMW.
Okay.
Parce qu'il a arrêté de s'acquitter de ses paiements mensuels de 1731 $ et qu'il devrait encore la somme de 139 000 $ à BMW.
Ben oui, mais là, comment que tu voulais? Les conteneurs étaient pris. C'était fait d'avoir Jean-Pierre qui dit qu'il devrait s'associer avec Sarto. Hey, ça te ferait un duo incroyable.
Tu sais, avec toute cette saga-là, vraiment, la meilleure décision à prendre, c'était de dire on lance Liquidation extrême 2.0.
2.0 avec un propriétaire qui va demeurer confidentiel, puis moi, je vais rester là, puis je vais gérer ça comme si c'était le boss.
C'est légal, Jeff, c'est pas lui le propriétaire.
Ah, c'est full légal. Full légal. Ouais, c'est ça. Si j'étais le fils, j'irais creuser à savoir qui est le propriétaire confidentiel.
C'est sûr qu'on va aller gratter.
Ça pourrait être un petit bijou. Ouais, merci beaucoup, guys. 418-971-101, vous êtes plusieurs à réagir encore aujourd'hui. C'est vraiment plaisant. BLVD.fm, vous le savez, c'est notre web radio, c'est nos meilleurs moments. C'est une très bonne façon également de nous écouter. BLVD101, c'est notre application. Téléchargez-la immédiatement si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit sur App Store et Google Play Store. Et vous pouvez aussi nous écouter à partir de votre haut-parleur intelligent. Vous dites écouter BLVD102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Avant d'aller en pause, circulation, Mathias.
On est vendredi, ça commence tôt. 20 direction ouest, c'est entre Taniata et Président Kennedy qui c'est au rouge. Capitale direction est, cette fois-ci à hauteur Robert Bourassa, ralentissement à signaler. Laurentienne direction sud, un peu plus difficile pour prendre la capitale. Henri IV, direction sud, aussi à hauteur de chemin Sainte-Foy, en raison des travaux dans le secteur, il y a un ralentissement qui commence à se faire sentir. Et l'action au pont Pierre-Laporte, direction sud, tranquillement, pas vite, on voit un ralentissement se créer. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 texto.
Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardius et ex-rédacteur de discours de François Legault, vient s'installer en studio avec nous. On revient sur cette semaine difficile de Christine Fréchette et on va parler récession dans quelques moments à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
On jase!
Oh oui, on jase sur l'heure du midi à Boulevard 102-1, midi 39. On va avoir Étienne-Alexandre Beauregard avec nous dans quelques minutes. Juste vous dire que vous êtes complètement fous. Mathias, on a une excellente suggestion de Christian par texto. Je vous rappelle le numéro, 418-971-1021. Apparemment que ça va être Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval, le propriétaire de Liquidation Extrême 2.0. On va s'assurer qu'il n'y a pas de corruption.
On s'entoure bien.
C'est ça, on va s'assurer qu'il n'y a pas de corruption là-dedans. Donc,
tout un duo avec lui et Éric
Barrette. Je trouve que c'est une bonne idée. Si vous avez d'autres bonnes idées comme ça, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous le savez, Boulevard 101 est associé à plusieurs causes et une qui nous tient à cœur, c'est l'Alzheimer. Et la Société d'Alzheimer de Québec va tenir sa marche pour l'Alzheimer. IG Gestion Patrimoine le dimanche 31 mai prochain dès 9h30. L'événement va avoir lieu à la Maison O'Neill. C'est une belle occasion de se rassembler pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Vous pouvez choisir la marche de 2,5 km, la course de 4 km ou voire même la course de 400 mètres pour les enfants. Ça, c'est tellement cute quand on voit des enfants de 2-3 ans courir un petit 400
mètres. C'est mignon, c'est mignon.
Oh, que c'est beau! Il y aura aussi des jeux gonflables, barbecue, maquillage pour enfants, mascotte sur place et plus encore. Notre escouade Boulevard avec notre animateur Nathan Meilleur va être là pour encourager les marcheurs. Les dons amassés sont essentiels afin de soutenir, former et informer toute personne concerné par la maladie de l'Alzheimer et offrir du répit aux proches aidants. Moi, j'ai mon père qui a aidé sa mère pendant au moins 8-9 ans, qui était aux prises avec la maladie de l'Alzheimer. Il était placé là, à l'Hôtel Dieu du Sacré-Cœur, mais quand même, tu sais, ça prend du soutien de la famille. Puis je vais vous dire une affaire, à un moment donné, mon père, il a eu besoin de soutien individuel aussi.
Bien, c'est sûr, c'est tout un défi. Il faut être courageux pour le faire aussi.
Oui, si vous êtes proche aidant, n'hésitez pas à prendre le soutien parce que, tu sais, mon père, tu sais, un vieux bonhomme de 73 ans maintenant, aujourd'hui, là, lui, il disait pas qu'il avait mal en dedans. Gardait ça pour lui. Puis à un moment donné, mais c'est son fils qui a réussi à le faire pleurer.
Mais
ben,
c'est
il dit,
ça.
Je crois que tu aurais besoin d'aide.
Ça éclate à un moment donné quand on renferme
ben,
trop ça en dedans.
Oui, exactement. Puis ça me permet justement de sensibiliser. Un 866 appelle, surtout avec la nouvelle qu'on a eue hier du décès de Claude Lemieux. Malheureusement, c'est confirmé. C'est un décès par suicide. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit, un 866 appelle. Vous le savez, je vous en parle souvent en ondes. J'ai eu cette période d'idée noire en 2019. Je m'en ai sorti en demandant de l'aide. Puis aujourd'hui, je suis animateur de radio. J'aurais jamais pensé faire de la radio dans ma vie.
Puis on est content de t'avoir, Jeff.
Ben, c'est ça. Fait que vous voyez comment la vie peut prendre un rebond inattendu, positif. Alors, allez-y, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de demander de l'aide. Pour vous inscrire ou faire un don, visitez le alzheimer.ca. Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus et ancien rédacteur des discours de François Legault, est avec nous. On va faire une petite tournée de cette semaine politique très mouvementée parce que, Étienne-Alexandre, tu l'as déjà vécu, les études de crédit, là, et que les oppositions se préparent pour le moindre détail.
Ben oui, c'est clair, c'est clair. Puis c'est comme un moment qui est rêvé pour une opposition parce que t'as du temps de glace, t'as le ministre qui est pris devant toi,
ouais.
Tu peux le griller pendant assez longtemps.
Pendant des heures
premier
et
ministre,
des heures.
Ça dure un peu moins longtemps que les autres parce qu'on comprend qu'il y a des occupations et tout, mais il y en a des ministres, ça dure sur plusieurs jours. Puis dans les cabinets, là, c'est toujours une période où on dit « Ouf, là, qu'est-ce qu'ils vont nous poser? » Puis là, on le voit, là, quand on l'écoute à la télé, on arrive avec nos cartables par-dessus cartables par-dessus cartables pour être sûr de ne pas en échapper une, mais ça arrive qu'on en échappe des fois, comme
ouais.
On l'a vu cette semaine.
Ben c'est ça. Parlant de guerrier, la première ministre Christine Fréchette s'est fait cuisiner d'aplomb par André Fortin. Si vous mettez les écouteurs, on va te faire entendre l'extrait.
C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui?
La dette nette aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la première ministre?
Ben, je voudrais vous donner le bon chiffre.
Environ? Je vous donne du jeu, là, il n'y a pas de...
Comment? 36%
En fait, non, je veux la dette nette, en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi?
En dollars, ça équivaut à quoi?
J'en conclue, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec.
Je vous reviens.
Ben, ça me semble assez clair, Monsieur le Président. Mais c'est correct, je vais vous le dire, c'est 259 milliards.
La question qui tue, Étienne-Alexandre, toi qui as été dans l'entourage du premier ministre François Legault, est-ce que Christine Fréchette aurait dû savoir oui ou non la dette du Québec?
Ah, mais c'est clair à ça que la réponse est oui, là.
C'est oui.
T'sais, parce que c'est pas comme si quelqu'un arrive et qu'il demande hey, c'était quoi le taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 3 janvier entre 22h puis minuit, là.
Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu trop
exact,
précis.
Parce que, tu sais, des fois, il y a des chiffres qu'on s'attend à ce que les gens sachent, puis c'est la dette du Québec. Tout le monde qui savent ça. En fait, c'est toujours traître, ces exercices-là. C'est comme quand M. Legault, dans le premier mandat, je ne sais pas si vous en rappelez, Manon Massé, il avait demandé c'est quoi le prix moyen d'un loyer à Montréal.
Oui.
Puis il avait répondu à quelque chose un petit peu en dessous. Puis là, QS avait fait son pain et son beurre avec ça pendant une couple de semaines. Puis c'est de bonne guerre, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais je pense que, dans le cas de Mme Fréchette, une des raisons pour lesquelles on en parle encore, rendu le vendredi, c'est que, tu sais, ça marque sa course à la chefferie, elle l'a faite en disant « Moi, je suis studieuse, je connais l'économie, etc. » D'aucuns diraient que si t'es studieux sur l'économie, la dette du Québec, c'est un chiffre de base.
T'as ça, exactement.
C'est comme un peu... Ça cadre mal avec le casting d'avoir quelque mm-hmm. chose comme ça. Puis, tu sais, les oppositions sont juste trop contentes quand ils sont capables de prendre des
fois. Puis, si tu es la responsable ou c'est davantage son équipe derrière qui l'a pas nécessairement préparé suffisamment?
Bien, c'est difficile à savoir, c'est sûr qu'effectivement, hein, puis je pense qu'on le voyait aussi dans le Salon Rouge à ces moments-là, les gens qui sont autour, c'est pas des députés, souvent il y avait la directrice de cabinet à côté, il y a le secrétaire général du gouvernement qui est comme le sous-ministre de la première ministre, il y a les gens du cabinet aussi, mais c'est sûr qu'en général, c'est quand même un chiffre qui est relativement de base, fait que c'est sûr qu'on aurait pu s'attendre à, là, mais c'est comme... Est-ce que faut pas en faire plus que ce que ça veut dire non plus?
Ouais.
C'est juste que c'est un moment qui... Puis c'est dommage pour elle, parce que dans la semaine précédente, on avait eu des sondages qui étaient positifs.
Elle était sur un bel air d'aller.
Exactement. Là, on voyait les chroniques qui commençaient à sortir en disant « Est-ce qu'il y a un effet fréchette? » etc. Il y a eu le congrès de la CAQ le samedi à Lévis, où il y a encore une fois un discours, on rassemble les troupes et tout.
Avec son chandail de la victoire.
Exactement.
Les députés et les ministres avec leur chandail du Canadien.
Ben oui.
Bon, Éric Girard qui a mis son chandail des Saguenay parce que c'est le ministre des Kings. Et non, ça, c'est correct.
C'est ça. Puis l'annonce de la levée de la TVQ sur les bord-tendres puis les mois salés. Ça, je pense que c'est un petit peu le début où ça a commencé.
Oui, ben c'est ça que j'allais dire. T'sais, toi, t'étais dans l'équipe de François Legault. T'sais, François Legault s'est beaucoup fait remettre sur le nez ses fameux chèques électoralistes. Puis là, j'ai l'impression qu'il était capable de faire la coupure avec l'ère Legault jusqu'à cette annonce-là où on a dit « c'est du pareil au même ». Je me trompe-tu?
Oui, bien, écoute, c'est sûr, c'est difficile de voir quelle marque tu vas imprimer. Puis je pense qu'effectivement, au moins au niveau du ton puis de la manière d'être, on est très différent de où François Legault allait.
Ça, c'est clair.
Mais tu vois, moi, j'ai toujours eu une relation un peu ambivalente avec cette question-là des chèques, parce que beaucoup de gens, évidemment, dans les médias, etc., aimaient le reprocher au premier ministre. Mais reste que 500$, ça faisait quand même une différence pour du monde.
Ben,
moi,
je me souviens,
on l'avait sondé, on a demandé aux gens « Êtes-vous favorable à ça? » 60% des gens disaient oui.
Ben moi, honnêtement, là, d'après, ce moment-là, là, je venais de me séparer, je venais de m'acheter un nouveau jumelé. J'ai pas craché, tu sais, 500$ qui est arrivé par la poste.
Ben c'est ça. Puis moi, je pense que là où ça a plus fait mal, c'est le montant. C'est que quand tu fais une annonce puis que tu mets dans ton communiqué de presse, ça va être 96 sous par semaine pour une famille de 4.
Ça, c'est vrai.
Ben, tu sais, comme juste le fait que tu t'en vantes, je sais pas, j'aurais peut-être levé le flag à ce niveau-là, parce que après les gens ils voient ça puis ils disent c'est sérieux, parce que après Éric Duhaime, il y avait beau jeu de dire ah ouais, ben vous savez quoi, la taxe carbone c'est 1000$ par année à la pompe pour une famille, fait que là on a une grosse différence
en effet.
Fait que souvent je pense que le montant il joue aussi, parce que c'est difficile de surjouer en grande pompe quelque chose qui est là, c'est anecdotique en
vrai. Je me permets de faire une parenthèse parce que te parler d'Éric Duhaime, ma tante Fréchette. Toi qui as déjà écrit des discours, t'aurais barré ma tante, là, j'imagine.
Mais, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai entendu ça, j'ai fait comme, hein?
C'est ça, comme moi, mais, je vais t'envoyer, voilà.
Ben, l'affaire aussi, puis ça, honnêtement, il faut quand même le dire, là, si on veut être honnête, moi, la quantité de fois quand je travaillais pour le PM, Legault, qu'on le traitait de mon oncle, moi, ça finissait par m'énerver, mais il n'y a jamais personne qui se faisait reprendre pour ça, hein?
Ouais.
C'était comme, ça, c'était admis.
En effet.
Mais là, la variante féminine ne semble pas admise, puis tout. Bon, est-ce que c'était le call du siècle, comme on dirait, sans doute pas?
Non.
Après, moi, je vais dire quand même que quand j'ai vu les journaux sur le lancement de campagne de M. Duhaime dans Bellechasse, puis que c'était à peu près la seule chose qui ressortait, j'étais comme, êtes-vous sérieux?
Regardez
un peu qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il proposait, pourquoi il allait dans ce comté-là. Tu sais, des fois, il y a comme... Puis surtout à l'endroit d'Éric Duhaime, qui n'est pas toujours le préféré de notre classe médiatique.
T'as raison.
Des fois, tu vois que si c'est juste ça que tu veux pointer sur le bobo, c'est comme,
mais c'est exprès. C'est aussi que c'est ça qui fait réagir.
Puis
on se fait prendre à ce jeu-là, nous autres aussi. Hier, on en a parlé, on en parle encore aujourd'hui. C'est
ben
ça qui va faire réagir le monde. Une citation d'Éric Duhaime qui dit « Oh, Bellechasse, c'est une belle région. » Ça accroche moins l'œil que « Ma tante Fréchette » d'Éric Duhaime, citation directe.
T'as raison. Mais tu vois, moi, je l'ai écouté le discours au complet par curiosité. Tu sais, des fois, quand on... L'arbre qui cache la forêt, là, je vais l'écouter. Puis il y avait un passage super intéressant sur les régions de dire... Puis ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, dans l'argumentaire, disons, critique du gouvernement qu'on connaît de la mouvance un peu plus à droite, libérale, etc., le côté région, il n'est pas à négliger. Juste dans l'absolu, c'est vrai que si tu restes à Bellechasse, tu te sens moins représenté peut-être par les décisions qui se prennent au complexe G, que même si tu restes à Montréal, parce que la démographie est différente, les réalités de ceux qui vont souvent travailler pour le gouvernement vont être plus urbaines et tout. Fait que je pense que, en tout cas, moi, je pense que Duhaime, il a bien fait de se présenter dans une circonscription comme Bellechasse, une circonscription qui était bonne pour le Parti conservateur du Québec. Là, ils ont passé de 3 à 35 en 2018 et 2022. Puis je pense que pour le message qu'il donne, qu'il veut être très axé sur les régions, sur les besoins des agriculteurs, des gens qui utilisent un véhicule, puis tout. Puis c'est vrai, tu sais, dans le sens que Moi, je comprends pourquoi les gens qui sont à Bellechasse sont un peu plus sceptiques du gouvernement que moi, par exemple, qui a longtemps resté dans Sillery et qui travaillait justement à l'égide pour le gouvernement. C'est sûr que la vision, elle va être différente.
C'est clair.
Moi, je pense que c'est un choix qui est intelligent de la part du PCQ de cibler les régions puis de dire qui est-ce qui partage un peu notre désillusion envers le gouvernement puis aussi envers le mur à mur parfois qu'on fait à Québec, les gens des régions. Fait que je pense que sur le fond, là, de choisir cette région-là pour se présenter, ça laisse aussi des circonscriptions en Beauce. On sait que des fois, on veut avoir un Beauceron en Beauce et tout.
Oui, oui, oui.
Il ne s'embarque pas dans ce panier de crabes-là. Il prend une circonscription qui est quand même proche de Québec, mais qui va être sensible à ce discours-là. Je pense que c'est quand même un bon choix de sa part.
Parlant de visions différentes, Mark Carney, Stephen Guilbeault, c'était des visions qui n'étaient plus réconciliables. Moi, ce que je retiens de Stephen Guilbeault, par exemple, c'est que c'est un gars avec beaucoup de classe. T'es qu'il a tenté de faire changer les choses à l'intérieur sans jamais faire trop de bruit à l'extérieur. Puis qui se retire aussi de la bonne façon. Je trouve que c'est rare qu'on voit ça en politique. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait une belle grandeur d'homme de ce côté-là de Stephen Guilbeault.
C'est vrai que de partir comme ça, quand même, sur une question de principe,
oh oui, de valeur.
On le salue d'avoir suivi ses valeurs plutôt que de se parjurer.
Moi, je vais toujours saluer les politiciens, même si je ne suis pas le plus environnementaliste du monde. Je vais toujours saluer les gens qui travaillent pour leurs valeurs.
Exactement.
C'est ce que fait Stephen
Guilbeault.
C'est
ça, il n'y a personne qui va pouvoir dire qu'en partant de là, c'était un move opportuniste ou quelque chose comme ça. Puis c'est drôle parce que moi, je pensais à ça dernièrement. T'sais, on voit le gouvernement Carney qui caracole en haut des sondages, notamment au Québec. Puis je me demandais, c'est quoi l'affaire qui va le casser? T'sais? Il va-tu avoir son troisième lien, son saclic, son affaire?
Ouais,
qui va
c'est
faire
vrai, ça!
Ça va prendre une autre direction. Puis c'est drôle, moi, Monsieur Carney, on s'entend que depuis qu'il est arrivé en politique, il y a vraiment un peu ce côté-là de « moi, je suis au-dessus de la politique
».
Moi, mes interlocuteurs, c'est Donald Trump, c'est l'Union européenne.
C'est Emmanuel Macron.
Voilà. C'est pas beaucoup les Canadiens.
En effet.
C'est pas beaucoup Pierre Poilievre, qui d'ailleurs a vraiment de la misère à avoir de l'oxygène politique ces temps-ci. Puis là, c'est comme si la politique le rattrape. Tu sais, de dire, tu penses que tu peux être en haut de la mêlée pour toujours jusqu'au moment où il y a quelque chose qui te pète dans la face.
Ouais.
Puis est-ce que c'est son aile gauche qui va le déserter? La question est ouverte.
Ben oui, parce que là, il y a quoi, 14, 15 députés qui sont justement du côté de Stephen Guilbeault, à savoir que là, ils disent, écoute, je me reconnais plus, moi, dans ce parti libéral-là, je suis dans le parti conservateur, donc... Il y a une grogne en interne. Là.
Exactement. Des députés qui, si je ne m'abuse, n'ont pas dit leur nom encore. Fait que
non,
ça
c'est
très
ça. C'est pour ça, exactement.
Puis bon, c'est ça. Mais on va voir pour vrai qu'est-ce qui va arriver. Puis si c'est ça qui arrive, effectivement, que ça va donner plus de chance aux conservateurs parce que eux, tant que le NPD n'existe plus puis que tous ces votes-là sont aux libéraux, ils pédalent dans le vide, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que s'ils veulent être capables d'avoir de l'air... D'ailleurs, c'est un peu la tragédie de M. Poilievre, là. C'est qu'il y a eu le plus haut score de l'histoire du parti à la dernière élection, tu sais, 40% pratiquement. Dans un monde normal où le NPD a un certain nombre de votes puis que le PLC avait fait une bonne performance, qui aurait probablement été au gouvernement.
C'est clair. Fait,
c'est drôle, quand on est à sa place en ce moment, tu te dis en fait, je peux juste jouer l'horloge. Je peux juste espérer que les libéraux, ils se mangent entre eux, qu'ils se divisent, que le NPD remonte. Puis à ce moment-là, il faut que je garde exactement les mêmes électeurs qui étaient là en 2025. Puis là, tout d'un coup, je vais avoir tant de comptes de plus que j'ai eu avant. Puis là, oups, je vais passer. T'sais.
En effet, l'horloge a joué contre lui parce que là, il y a eu des gens qui ont quitté pour aller aux libéraux. Mais là, ça se pourrait que ça revienne cette fameuse horloge-là. Je veux juste prendre un petit deux minutes avec toi. J'aime beaucoup parler de la question identitaire avec toi, Étienne Alexandre. Et là, le rapport de Oui Québec, la souveraineté, on n'est pas assez inclusif. Moi, je trouve que ça fait rapport commandé. Là. T'sais, le PQ, moi, quand il parle à l'heure actuelle, au niveau identitaire, je me reconnais beaucoup là, en tant que Québécois de 46
absolument.
Ans. Là.
Absolument. Puis c'est drôle parce que ce débat-là, c'est l'impression que c'est le jour de la marmotte. Tu sais, moi, là, je fais de la politique depuis 2016. J'ai 25 ans, ça t'indique que ça fait longtemps que je suis là-dedans.
Écoute, moi, je me rappelle de la crise des accommodements raisonnables.
Exactement. Puis moi, je me souviens, quand je suis rentré en 2016, écoute, il fut un temps où j'étais au Parti québécois, brièvement, au Comité national des jeunes, puis c'était les mêmes débats.
C'est ça.
Est-ce que la Charte des valeurs, c'était une bonne idée? Puis là, t'avais toute la bande des inclusifs habituels qui disaient non, c'était méchant, on s'est mis à dos tellement de progressistes, etc. Mais l'affaire, c'est que, je sais pas, moi, ces gens-là, ils sont pas capables de lire un sondage, mais la Charte des valeurs, c'est le truc le plus populaire que le PQ a fait dans les 25 dernières
années. Puis l'affaire, c'est que QS est à 8% dans les sondages.
Exactement. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis un petit peu en pause le dossier identitaire parce qu'ils avaient peur d'aller là-dessus. Puis là, la CAQ est allée 100% en disant « nous, ça va être la loi 21 ».
Puis la CAQ a scoré avec
gagné.
Ça. Là.
Puis ils ont gagné. Oui. Puis moi, je pense que si le PQ était capable de devancer la CAQ dans les dernières années, c'est pas accidentel le virage identitaire que M. Plamondon a fait.
C'est
il y a un lien direct avec ça parce que les électeurs souverainistes, les électeurs nationalistes, ils ont les mêmes affects. Tu sais, je veux dire, c'est la défense de l'identité québécoise, c'est la question des valeurs, la question de la langue, tout ça. Ils veulent pas quelqu'un qui prend des demi-mesures là-dessus ou qui a peur d'en parler.
Mm-hmm.
Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que le virage de M. Plamondon sur cette question-là a été 100% bénéfique pour le PQ, puis à bien des égards, c'est la source de leur succès. Parce que, veux, veux pas, tu regardes, j'ai posté ça sur Twitter pour essayer de remettre les chakras à la bonne place à certains. Tu sais, les gens là, qui sont inquiets pour le déclin de la langue française au Québec, là, dernier sondage que j'ai vu, c'était quelque chose comme 74,5%.
En effet, je fais partie de ceux-là.
Ben oui, moi aussi. Puis chez les francophones, on est en haut du 82. T'sais, c'est très, très, très élevé. Ouais. Tu regardes ceux qui avaient un problème avec les fameuses prières de rue à Montréal, 61%. Ceux qui appuient la loi 21 aussi, on est autour de 50-60%. Puis ceux qui appuient la souveraineté en ce moment, c'est 32. Fait que,
ouais.
Tu sais, moi, je veux pas donner de leçon à personne, là. Mais ah si non, mais... tu veux regarder à qui tu parles, est-ce que de juste te concentrer sur 32 ou d'essayer d'élargir aux 75, c'est payant?
Ben, en effet, ben, tu sais, gars, je vais donner un exemple personnel. Là, je l'ai dit sur les ondes. Moi, mon prochain vote, ça va être vraiment sur la question identitaire. Je crains pour notre langue française. Je crains pour notre laïcité. Ça va être vraiment là-dessus. Et puis, j'ai jamais voté PQ de ma vie. La première fois que j'ai voté, j'avais 19 ans. Je pense voter pour le PQ.
Ouais.
Pas nécessairement parce qu'à l'heure actuelle, la souveraineté me fait triper puis que je veux que le Québec devienne un pays, mais juste parce que quand le PQ parle identité, je me reconnais. Puis après ça, je me disais, hey, s'il y a un référendum, on le gérera rendu là. Puis ça sera au PQ à me convaincre que c'est la meilleure solution. That's it. Ils auront tout le temps voulu pour me convaincre.
Ben oui.
Mais je pense vraiment voter PQ. Fait que c'est pour ça, quand tu dis entre le 32 et le 75, ben moi, je suis là-dedans. Là.
Ben c'est clair.
Je suis vraiment là-dedans. Fait que je pense que le PQ, bien plus à gagner de dire on continue dans notre vision identitaire que de dire ah ouais, on va essayer de faire des accommodements raisonnables pour reprendre ce qui a déjà existé. Ils vont perdre à faire ça.
Ben oui, mais tu sais, encore une fois, c'est le jour de la marmotte. Je me tends de moi-même à parler de ça. Mais c'est toujours les mêmes qui travaillent dans les mêmes médias, qui ont un problème avec le discours identitaire.
En effet.
Puis qui font passer leurs préférences personnelles pour les préférences des Québécois. Mais
oui,
ceux qui sont là, les pires opposants de la loi 21, qui pensent qu'il faudrait, je sais pas, doubler les seuils d'immigration, comme le Conseil du patronat nous le dirait, puis qui disent qu'il n'y a absolument aucun problème avec les valeurs ou la langue en ce moment, c'est une peau de chagrin dans le vrai électorat.
C'est ça,
là. Surtout chez les francophones, est-ce que c'est 10 ou 15 du monde?
Ben oui.
Des fois, je me le demande.
Ben, t'as raison, que le PQ continue à parler aux francophones, c'est là qu'ils vont aller chercher leur majorité.
Absolument, absolument. Fait que, tu sais, c'est juste de dire à quel... Moi, ça me dérange pas si vous me dites j'ai un problème de principe avec ça pour les raisons X, Y, Z. Je pense qu'il y a un enjeu avec, quand sais-je, les droits et libertés, l'inclusion. Ça, moi, je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à discuter de ça. Mais si vous dites c'est comme ça qu'ils vont perdre leurs élections, je m'excuse, c'est juste pas vrai.
En effet,
c'est pas ça que les Québécois, ils veulent. Puis c'est un peu le problème du Parti libéral en ce moment.
Ils ont
commencé à monter un petit peu chez les francophones. Puis là, oups, ils sont emmêlés les pinceaux
sur la langue. Dès qu'on a parlé de langue française,
ils étaient rendus à 10-15.
Ben oui, il était rendu à 23% dans le vote francophone. Puis au dernier sondage, il était à 15, me semble.
C'est ça, puis ils ont planté encore. Parce
puis
que leurs produits, les gens veulent pas l'acheter.
Ben oui, puis là, ils vont devenir un parti libéral encore régional, juste à Montréal, dans quelques comtés. Là, c'est ce qui va arriver. Et on termine. Récession technique à l'heure actuelle. Tu conseilles la première ministre, tu conseilles les chefs, là, parce qu'on s'en va en campagne électorale. Tu leur dis quoi? Ça change-tu le plan de match ou on continue comme ça? Parce que de toute façon, on parlait déjà du coût de la vie.
Ben, je pense que ça va remettre encore plus l'accent, effectivement, sur le coût de la vie. Mais... tu sais, je pense qu'on l'a vu cette semaine avec toute la question là, des bartendes détaxés. Celui qui va vouloir récupérer ça, ça va prendre un coup de barre. Il va falloir, comme on dirait en bon français, donner un coup de pied dans le canis. Puis je pense que juste d'arriver avec un petit truc ciblé sur le côté... c'est comme un peu M. Carney, il a essayé le même coup avec son allocation d'épicerie.
Ouais, c'est ça. Ça marche pas, ça.
Moi, c'est mon conseil que je fais à tout le monde quand j'étais conseiller politique. Je disais, faut que tu aies quelque chose qui marque l'imaginaire. Tu sais, je veux dire, si... nous, on n'est pas capable d'en parler pendant 5 minutes puis que la personne qui écoute dans l'auto comprend de quoi on parle parce qu'on est trop occupé à expliquer que oui, mais là, c'est la taxe sur telle affaire qui va changer. Tu perds les gens.
T'as tellement raison.
L'électeur moyen, il donne 10 secondes par jour à la politique. Genre.
Ouais.
Fait qu'il faut que tu sois capable de saisir. Puis t'sais, là-dessus, moi, je pense que ça va être des baisses d'impôts là, ou des baisses de la taxe. Puis là-dessus, M. Duhaime, il a raison de continuer à taper sa taxe carbone. Parce
en effet.
Moi, en tout cas, depuis que j'ai une voiture, là, à chaque fois que je fais le plein, la taxe carbone, je l'ai où tu penses, puis je me dis, oh là là, c'est
127 $ mon minivan hier.
Pour
Hey, 127 piastres.
Puis le gaz vient de baisser. Le gaz vient de baisser, puis ça t'a coûté 127 piastres.
Ah, exactement. J'étais comme...
Alors, la semaine passée, quand j'ai fait le plein, je l'ai pogné à 1,99. Là, à Ottawa, c'est moins pire parce qu'il n'y a pas la taxe.
C'est vrai?
Je l'ai pogné à 1,72. Hey. Là, j'arrive à Québec ici, ah, 1,86.
Ben, c'est ça. Mais encore là, tu sais, puis je comprends toutes ces taxes à l'essence ça, mais ce qui me fâche, c'est que ça finit toujours, on dirait, par être les essenceries qui s'en mettent dans les poches, parce que crème, ils l'ont baissé de 10 cents au Canada, puis on voit pas le on voit pas le ressac à l'heure actuelle.
Mais cela dit, la différence Québec.
Quelle conversation plaisante avec Étienne Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardius. Hey, 25 ans avoir une expérience politique comme ça, être capable de vulgariser, c'est toujours un bonheur de lui jaser. Ça va se retrouver évidemment sur le blvd.fm. Si jamais vous avez manqué la discussion. Dans quelques instants, on parle avec Alex Laramé. On va parler malheureusement du décès de Claude Lemieux et également du match de ce soir du Canadien de Montréal. J'en profite pour vous rappeler que le 1-866 appel est là pour vous si jamais vous avez des difficultés. Même si vous êtes un homme qui parle pas de ses émotions, appelez au 1-866 appel. Comme le dit si bien Yannick Marceau, le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Mathias, manchette avant le sport?
Oui, hier, je vous parlais d'une situation du côté du pont de l'île d'Orléans, comme quoi le vieux pont pourrait devoir fermer d'ici la fin de 2027, puis là, on reporte l'ouverture du nouveau pont après 2028. Alors, on a appris que les discussions par rapport au report du chantier du pont de l'île d'Orléans ont lieu depuis au moins la mi-avril, alors que Benoît Charrette a affirmé qu'à son arrivée en poste à la mi-avril, des discussions concernant un report pour la livraison du pont étaient déjà en cours à ce moment-là. On ne sait pas depuis quand on a l'information du côté du ministère, mais ça fait déjà au moins un mois et demi. Il a également tenu à rassurer de nouveau les citoyens, les différents habitants de la ville de Québec, comme quoi la fermeture du pont en 2027 est une information complètement erronée qui est basée sur un vieux rapport de 2022 qui n'est plus à jour.
On a parlé avec Jean Lapointe, maire de Saint-Jean-Île-d'Orléans ce matin, dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Il se faisait rassurant aussi par rapport au vieux pont. Il dit que le gouvernement le gère bien. Donc, il avait l'air satisfait de ce côté-là, mais très insatisfait, par contre, des délais du nouveau pont. Puis c'est simple, si on se retrouve pas de pont pour l'île d'Orléans, c'est l'île qui passe.
Ça serait la catastrophe.
C'est l'île qui tombe en faillite, tout
vraiment,
simplement.
Vraiment. Isabelle Lecour, députée présentement dans Lotbinière-Frontenac, et Luc Provençal, député de Beauce-Nord, ne vont pas se représenter pour les prochaines élections du côté de la CAQ. Ça fait plusieurs députés maintenant, surtout dans la grande région de Québec, qui décident de ne pas se représenter. Puis on s'entend qu'il y a des raisons. Bon, on va tous donner des raisons personnelles,
oui,
là, mais
oui, oui.
Les sondages doivent jouer beaucoup dans
les
ces
raisons. Les raisons, c'est Québec 125. Allez voir non, ces circonscriptions-là. La CAQ ne score pas du tout.
Je vous rappelle que selon la définition de la récession technique, ben on est officiellement en récession technique alors que la croissance économique du PIB réel du Canada a diminué pour le deuxième trimestre consécutif, notamment en raison des tarifs douaniers de Donald Trump. Pas de panique, on dit que ça veut pas dire pour autant que l'économie est morte, mais on va suivre ça de près au cours des prochains mois. Et rapidement, j'aimerais vous rappeler que Donald Trump se trouve présentement dans la Situation Room. Pour prendre sa décision finale concernant un possible accord avec l'Iran. On devrait donc avoir une décision du président américain d'ici la fin de la journée. On vous rappelle que concernant un cadre d'accord, la seule affaire qui nous manquait, c'était la signature de Donald Trump.
C'est
donc, bien hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça.
On va vous tenir informé dans Gravel, dans le retour de 14h à 18h avec Denis, Véro et Audrey. Parlant de Gravel dans le retour, hier, Jean Perron était sur nos ondes, entraîneur de Claude Lemieux, notamment lors de la Coupe Stanley de 1986. Et il a raconté une anecdote savoureuse. Je vous la fais entendre.
Ah oui, écoute, Claude Lemieux a marqué, je pense, c'est
oui.
Il est en nomination pour le trophée Condespec qui a été gagné par Patrick. Ah non, on va dire, il était fatigant, puis pas à peu près sur une patinoire. Claude, quand je l'ai coupé au camp d'entraînement en 85, j'étais pas trop content, mais je savais pas qu'il était aussi démoralisé que ça. Je m'en vais chercher mon auto après l'entraînement que j'avais coupé tous ces joueurs-là, des gars comme Claude Demieux, Alfie Turcotte et ainsi de suite. Et l'agent de sécurité du parking à côté du forum dans le temps, il dit « Hey, tout un phénomène, ce Claude Lemieux-là. » J'ai dit « Comment ça? » Il dit « Il est arrivé à son auto, puis il dit, il a pris son bâton, puis il a fracassé la vitre de son char. »
Wow! Bon. Complètement incroyable comme anecdote. Comme quoi, dans le temps, ça se passait différemment, Cooper. Il n'y a pas d'agent de joueur à côté de toi et de tout ce beau monde-là qui veulent prendre soin de ta carrière. Alex Laramé, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Comment vas-tu?
Ça va bien, les gars. On est prêts pour le match de ce soir.
Hey Alex, je vais te poser une question parce que toi, tu as les deux pieds dans la grande métropole. C'est quoi le ressac de la mort de Claude Lemieux? J'ai l'impression que la ville en entier est en deuil, surtout parce qu'il a porté le flambeau lundi.
Ben oui, ça a été un choc, je pense, pour tout le monde. Puis tu l'as dit d'autant plus que, tu sais, tout le monde, on l'a tous vu lundi. Là. Moi, j'étais au Centre Bell, je l'ai vu de
c'est
mes yeux.
Vrai,
il était
là.
Il était pas super loin de moi non plus. Donc, non, ça choque vraiment. Puis ça rappelle surtout que, tu sais, les problèmes mentaux, la dépression, tout ça, peu importe, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans son cas, mais c'est pas visible à l'œil nu. Hein, puis on écoutait tous les anciens. Il y en a qui lui ont parlé vraiment personnellement dans le salon des anciens lundi. Ils disaient, pourtant, il avait l'air en forme, il avait l'air correct. Puis finalement, on sait qu'est-ce qui est arrivé 48 heures plus tard. Mais non, évidemment, ça a affecté tout le monde. Même mon patron ici, Benoît, qui l'a vu jouer dans ses belles années, lui aussi, là, était très affecté hier après-midi. Là, on voyait que ça l'avait vraiment touché, puis ça a touché la majorité des Québécois.
Oui, on le rappelle, un 866 appel. Si vous avez des problématiques, allez-y, demandez de l'aide. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Dans le cas de Claude Lemieux, pour des petits jeunes comme vous autres, là, Mathias et Alex, qui ne l'avaient pas vu jouer, là, c'est simple, c'est Brad Marchand. Claude Lemieux était le Brad Marchand de la Ligue nationale. Détestable à mourir, poteur comme Brad Marchand.
Un combattant.
Ah, c'était l'enfer. L'enfer trophée Conn Smythe, d'ailleurs, avec les Devils du New Jersey lors de la première Coupe Stanley avec les Devils. A gagné 4 Coupes Stanley dans 3 équipes différentes. Une avec le Canadien, une avec les Devils du... 2 avec les Devils du New Jersey, une avec l'Avalanche Colorado. Tantôt, j'entendais Serge Chavard en entrevue, puis c'était super intéressant parce qu'il disait « Claude Lemieux, c'était quelqu'un qui avait besoin comme coach d'un père. » Tu sais, il y avait... Claude Lemieux était quelqu'un qui était souvent down et avait besoin de quelqu'un, justement, toujours pour l'allumer, le remonter. Puis Serge Chavard l'avait échangé aux Devils du New Jersey à l'époque contre Sylvain Turgeon parce qu'il avait nommé Pat Burns comme coach en chef, qui était un ancien policier puis qui dirigeait ça comme un général de l'armée. Ça ne fitait pas du tout avec Claude Lemieux, il n'y a pas de doute là-dessus. Alex, ce soir, match entre le Canadien et les Hurricanes, match numéro 5. Colin, que je suis déçu, Gallagher a patiné avec les réservistes. Coudon, Martin Saint-Louis, comment ça? Il n'a pas le goût de mettre Gallagher de même dans l'alignement qui en aurait été peut-être à son dernier match à vie à Montréal.
Ben ouais, on sait la situation de Gallagher qui est laissé de côté depuis plusieurs semaines. Puis tu sais, on parle du décès de Claude Lemieux. S'il y a un joueur dans le Canadien qui se rapproche un peu du style de jeu de Claude Lemieux qui aurait pu amener cette énergie-là pour le Canadien, oui. C'est Brendan Gallagher. Puis moi, ce que je trouve déplorable, là, c'est pas qu'on entend que peut-être Jacquet serait réinséré dans formation. Là. OK, il va jouer genre 5 minutes, là, on s'en fout un peu.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est plus le point que comment Martin Saint-Louis va défendre ses décisions s'il ramène pratiquement le même alignement, puis là, on a 3 défaites de suite, puis on se fait sortir. Je disais sur Twitter, à un moment donné, c'est aussi une question d'être capable d'expliquer puis de défendre tes choix. Si tu fais des changements, puis là, tu perds. Mais là, on dit que la folie, c'est de réessayer la même chose en espérant un résultat différent.
C'est vrai.
C'est plate à dire, mais c'est un peu ça qu'on a l'impression qui se passe avec le Canadien. On le sait, le réservoir est à plat, donc d'amener un joueur qui n'a pas joué dans les derniers matchs, ça semble être une solution assez logique, mais bon, on va donner le bénéfice du doute à Saint-Louis, qui nous a quand même remis d'en face plusieurs fois dans ces séries lorsqu'on a questionné ses décisions.
Puis en même temps, là, on dit que Zakai, ça change pas grand-chose. Encore une fois, Gallagher, de rentrer dans l'alignement, anyway, je reviens au point. Veneno joue quoi? Joue un 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes par match gros max. On rentre un Brendan Gallagher qui va en jouer 6, qui va se donner, qui va aller devant le filet. Puis par respect pour le joueur, de un, il y a le respect. Je comprends qu'on est en série puis que des fois, faut que tu prennes des décisions pour gagner. Mais là, les décisions que tu prends pour gagner depuis une coupe de match fonctionnent pas.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis t'es comme Jennifer nous l'écrit au 418-971-101, t'es Gallagher, ça aurait été une étincelle. Cette étincelle-là que ça prend pour l'attaque, là, parce que Écoute, au faible nombre de lancers qu'on a par match, oh my God, ça prend quelque chose.
Le leadership que Gallagher aurait pu amener sur le banc aussi, je vois mal comment on explique de dire « Non, non, ça se passe tellement bien depuis trois matchs, j'apporte pas de changement, puis Brendan Gallagher va rester dans les estrades. »
En effet. Hey Alex, t'es-tu de ceux qui ont l'épiderme sensible puis qui disent « Voyons, ça n'a pas d'allure que les spectateurs aient crié « shoot de puck » aux Canadiens. » Je me dis... Moi, je compte le fait, ce qui avait été fait il y a à peu près une vingtaine d'années, peut-être 15, quand les partisans du Canadien huaient à répétition Patrice Brisebois. Je pense que tu n'as pas à faire ça à un joueur de ton équipe. Mais dans un moment donné comme ça, d'une série où tu te fais dominer 19-3 en troisième période pour les tirs au but, que tu n'as pas de tir au but dans les 15 premières minutes quand tu n'as pas marqué de but, puis que tu as payé ton billet 700$, wow, je pense que tu as le droit de crier chaud de puck.
Écoute, moi, je suis pas un homme sensible. On parle des gens qui ont payé leur billet à fort prix. Ils ont le droit de crier. Puis, tu veux savoir de quoi? Les joueurs de la Ligue nationale sont payés des millions. Fait qu'ils ont juste à l'endurer. Puis, s'ils sont pas contents, ben, qu'ils tirent au filet. Puis, les partisans, ils crieront pas ça dans les estrades. C'est aussi simple que ça.
En plein ça, les grands messages sur les médias sociaux. Là, avec la saison que le Canadien nous a donné, faut les respecter. Hey, vierge, ils ont joué comme des pieds de céleri mercredi. Tu sais, mon frère m'a écrit, puis il m'a dit... Je suis d'accord avec les partisans. Les partisans méritaient mieux pour peut-être la dernière période à Montréal. Moi, je suis très d'accord avec mon frère là-dessus.
Mais par contre, des partisans qui huent Canadiens, ça, je ne respecte pas ça.
Je suis d'accord.
Ça, c'est inacceptable. Il y en a eu quelques-uns au Centre Bell lors du dernier match. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Shoot the puck, je vais pas... Pour avoir joué au hockey, je comprends les joueurs. Par contre, c'est tannant en maudit de se faire crier après quand tu
joues sur la patinoire. Ouais, mais là, comme Alex dit, ils sont payés des millions.
Ouais, mais c'est vrai que c'est tannant. Par
contre... T'attends-tu à ce que ton chirurgien cardiaque soit pas capable de prendre la pression de t'opérer au cœur?
Ouais, ben si tu cries après ton chirurgien cardiaque, prends-la la maudite pression,
hey,
ça se peut que ça te déconcentre un peu. Là.
Les gens, ça veut sa clientèle à 20$, ils se font crier après, vierge, puis ils rentrent le lendemain.
Ouais, mais c'est pas correct pour autant. Non, mais mon
point...
On
les chouchoute!
Bon, là, Jeff, laisse-moi finir.
Je sais, je t'agace.
Mon point, je vais pas blâmer les partisans pour le faire, parce que t'es dans l'émotion, t'es dans le game, tu veux gagner... Mais je comprends les joueurs que ça peut leur taper sur les nerfs. Ça je comprends comme les deux côtés dans cette situation-là.
Oh, les pauvres joueurs.
Bon.
Moi, je vais vous le dire.
Il y en a marqué 51 dans l'année. Pauvres loups.
Moi, je vais vous le dire. Hué, je ferais pas ça personnellement.
Ça, c'est
mais...
clair. Moi non plus, j'ai jamais hué.
Mais je peux comprendre. Puis à la limite, c'est sans... si ça pique l'ego des joueurs du Canadien,
ben,
je pense
ça.
Que c'est un peu ça le but. C'est un peu ça le but, c'est d'essayer de les réveiller parce qu'à un moment donné, crier « go, abs, go », on voit que ça ne fonctionne pas, donc on va essayer quelque chose de différent. Écoute, moi, je ne peux pas en vouloir aux partisans du Canadien qui font ça, même si personnellement, moi, je le ferais pas.
Ah, je ne suis pas d'accord avec toi, Alex. Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Huer des joueurs sur la patinoire, je comprends qu'ils ne donnent pas nécessairement des grosses performances. Mais de là, elle est huée. Je trouve que c'est une démonstration de
haine. Pauvre-tu Slafovski qui se ferait hueux.
Je dis pas que je prends des joueurs en pitié.
Pauvre-tu Slaf. 7,6 millions de dollars par année pour avoir des séries
oui, mais
de marde de même.
C'est l'argument facile, ça, sortir le salaire. C'est l'argument facile. Oh. Mais pour moi, on doit quand même un peu de respect en ces joueurs-là. Je dis pas si on avait une saison désastreuse, là, c'est quelques matchs un peu plus difficiles. Je peux comprendre les sentiments des partisans, mais pour moi, manquer de respect de même envers les joueurs, ça s'excuse pas nécessairement.
OK, d'abord, on leur envoie de l'amour à ces millionnaires-là du hockey. À nos Canadiens. Depuis que j'ai dit ça, le Canadien, 3 défaites. Il y a des haters qui me disent que je joue mon rôle à la perfection, mais non, je suis rendu un Canadien. 5-3 Canadiens à soir, je vous le dis, c'est en deuxième période ça se passe. 4 buts du Canadien en deuxième période. Demidov va en mettre 2 dedans, puis bang, on revient à Montréal dimanche soir. Alex Laramé, tu penses quoi?
Moi, pour moi, la clé, c'est le premier but. Si le Canadien ne marque pas le premier but, le rouleau compresseur des Hurricanes va rouler, puis c'est terminé pour le Canadien. Mais je pense qu'avec le décès de Claude Lemieux, les joueurs vont être galvanisés.
Ça, je suis d'accord.
On y va pour une victoire de 3-1 ce soir avec le Canadien. Dobesh vole la game. On marque le premier but. Merci, bonsoir. On s'en va à Montréal dimanche.
Ah, moi, j'y crois pas autant.
T'sais, là, il veut pas qu'on l'ait eu, mais il croit pas.
Ouais, c'est ça. Très conséquent. Très conséquent dans ses propos.
Ouais, non, je pense... Je demande pas aux personnes de UE canadien pour autant, mais je pense qu'à soir, on va l'échapper 4-1 puis que ça va être malheureusement fini.
OK, Nick Suzuki, Cole Caulfield puis toi-même, Mathias, qui est pas positif du tout. Écoutez cette anthologie.
Lemieux qui reprend derrière le filet. Une passe. La rondelle libre. Ouais, reprise par Lemieux. Le tir.
À la mémoire de Claude, le Canadien se doit de gagner. Alex Laramie, on s'en parle lundi?
Yes, à lundi.
Puis hey, pour être encore plus confiant, lundi, on se parle d'un matchette.
J'espère, on se croise les doigts.
Let's go! Go Habs, go, les amis! Après cette courte pause, on fait un gros tour de nouvelles avec vous, les principales nouvelles de l'actualité. Puis on va parler de deux petits enjeux locaux. Il y en a un que comparer les itinérants aux moufettes.
Il a échappé un peu. Un petit peu.
Ah, il avait oublié de se tourner la langue 7 fois avant de parler. On vous revient. Merci d'être à l'écoute. Merci d'interagir avec nous au 418-971-1021. Si vous ne savez pas déjà, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter via le blvd.fm. C'est notre web radio. Téléchargez notre application. Elle est gratuite sur App Store et Google Play Store. Et haut-parleurs intelligents pour ceux qui sont en télétravail. Qui sont la fin de semaine à la maison? Vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Et parlant de la fin de semaine, ça débute dès 18h ce soir avec le Garage à Dan. C'est avec Dan Caron. Samedi et dimanche dès 7h, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Les meilleures chansons acoustiques du rock. 10h, c'est le Boulevard du Rock. Le samedi, c'est avec la légende Dan Caron. Le dimanche, c'est avec Colosse. À 15h, les samedis et dimanches, c'est les Colosses du Rock qui sont animés par notre ami Joe Plamondon. Colosses, c'est notre show le plus edgy. C'est dans ce show-là qu'on diffuse du Rage Against the Machine, du System of a Down. Bref, les tunes qui bûchent de notre catalogue. Un petit disturb avec ça? Pourquoi pas? En plus du meilleur rock en écoutant BLVD ce week-end, vous pourriez gagner deux accès pour la deuxième édition d'Inexploré. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, Inexploré? Ah! C'est un festival brassicole à la souche. Ça inclut une carte de dégustation. Oh, que je vais aller faire un tour là, les amis, les bières de microbrasserie. C'est mes préférés. Donc, que soyez à l'écoute de Boulevard. Comme le dit si bien Denis Gravel, c'est la musique qui reprend son droit la fin de semaine. Et la semaine, on est 100% parlé. À la circulation, Mathias?
Oui, juste commencer avec la 20 en direction ouest. Présentement, il y a une panne dans la voie de droite, ce qui crée un fort ralentissement dans le secteur. C'est à hauteur de chemin des îles. Ça remonte présentement un peu après Kennedy. C'est pare-choc à pare-choc dans le secteur. Également, c'est rentré dans les derniers instants. Henri IV, direction sud, à hauteur de chemin Sainte-Foy, qui est déjà en travaux, qui rend la circulation difficile. La voie de gauche qui est bloquée en plus en raison d'un accident. Préparez-vous, c'est déjà le bordel dans le secteur, puis ça va s'empirer au cours des prochains instants. Là. C'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à Wilfrid Hamel pour l'instant. Également, capitale direction est, c'est à hauteur de Robert Bourassa, qui est au ralenti. Dans l'ancienne direction sud, c'est au rouge pour prendre la capitale. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto. Je veux juste finir rapidement. Il y a un communiqué des transports qui vient de rentrer. Et on indique une fermeture complète de la chaussée en direction sud sur Laurentienne entre le boulevard du Lac et le boulevard Jean-Talon-Est du 8 au 11 juin prochain, entre 20h et 6h la nuit, si jamais vous avez à circuler dans le secteur durant la nuit au cours de ces dates-là. Prenez-en bien note.
Merci beaucoup, Mathias. À la météo, ben, c'est une journée moche aujourd'hui, 13 degrés. Ça va être de la pluie qui va débuter cet après-midi. Ça va se poursuivre en soirée. Des vents qui peuvent atteindre jusqu'à 70 km/h. Donc, soyez prudents sur la route. Demain, c'est la belle journée du week-end, 17 degrés, généralement ensoleillé. Et 15 degrés, possibilité d'averse à 60% pour dimanche. Au sport, je vous rappelle que ce soir, c'est le Canadien de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline à 20h. Sinon, ben, sachez que les Capitales de Québec ont balayé leur première série à domicile. Ils ont maintenant un dossier de 12 victoires et 4 revers. Hier, ils l'ont emporté facilement contre Sussex County par la marque de 11-2. Les Jays de Toronto l'ont emporté 2-1 hier sur les Orioles. Une troisième victoire consécutive. Et dans la NBA, les Spurs de San Antonio ont gagné 118-91, il y aura un match-chette entre eux et le Thunder d'Oklahoma City. Samedi 20h, le Thunder qui sont les champions défendants. Les Knicks de New York attendent patiemment le gagnant de cette série. Mathias, en manchette, avant qu'on se fasse un petit bloc d'actualité plus local, qu'est-ce qu'on doit surveiller?
Oui, je commence par Kevin Deblois qui a été reconnu coupable par jury de meurtre au deuxième degré, d'outrage au cadavre et d'incendie criminel. L'homme qui sera donc condamné à la prison à vie. Je vous ramène en 2022, une femme de 36 ans qui avait été retrouvée, en fait, les restes calcinés de cette dame-là qui avait été retrouvée dans une camionnette incendie. Elle aurait été abattue par balle. Par la suite, on aurait tenté de dissimuler le cadavre. Donc, Kevin Deblois qui a été reconnu coupable de ce meurtre-là. Il avait 24 ans au moment du meurtre. Maintenant, il en a 28. La juge devra décider après combien d'années il sera admissible à la libération conditionnelle, donc entre 10 et 25 ans. La croissance économique du Canada a encore une fois diminué ce trimestre. Là, on parle du PIB réel qui a diminué pour un deuxième trimestre consécutif, ce qui nous rentre techniquement dans la définition d'une récession technique. Sans rentrer dans les détails, il ne faut pas nécessairement paniquer, mais c'est sûr qu'on va surveiller la situation économique de près au cours des prochains mois. En parlant de la situation économique qui est difficile au cours de la dernière année en raison des tarifs de Donald Trump, Mme Christine Fréchette qui était du côté de Jonquière aujourd'hui pour annoncer l'inauguration officielle de 96 cuves supplémentaires d'AP60. Du côté de Rio Tinto, on parle d'aluminium créé avec une faible empreinte carbone. C'est 2 milliards d'investissements qui sera effectué par Rio Tinto, dont 150 millions de dollars qui sera appuyé par le gouvernement du Québec. On parle de 160 000 tonnes métriques d'aluminium supplémentaire qui sera engendré par cette annonce d'aujourd'hui.
Oui, on écoute Christine Fréchette à cet effet lors de l'annonce de la première ministre du Québec.
Ça, parce que quand il est écrit « on façonne l'avenir de l'aluminium », c'est vraiment ça qui se joue ici. C'est l'avenir de l'aluminium, non seulement pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, non seulement pour le Québec, mais pour l'aluminium à l'échelle internationale. C'est ça qui est en train de se jouer ici, parce qu'on travaille sur une technologie de rupture.
Alors, excellent positionnement du côté de Rio Tinto et du côté de l'aluminium au Québec. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé là-dessus.
C'est une bonne nouvelle qu'on s'en sorte bien malgré des tarifs forts sur l'aluminium et l'acier du côté des États-Unis.
On fait preuve d'innovation, j'adore!
En parlant des États-Unis, Donald Trump qui se trouve présentement dans la Situation Room du côté de la Maison-Blanche. L'objectif, c'est une rencontre, une réunion pour qu'il prenne sa décision finale concernant un possible accord avec l'Iran. On devrait avoir plus de détails au cours de la journée. Du côté de Montréal, on vit une drôle de situation. Puis quand je dis drôle de situation, c'est une drôle de situation.
Y a-tu un geyser qu'on ne sait pas pourquoi c'est arrivé encore?
Non, on a l'air d'avoir appris de nos erreurs okay, puis bon, de prévoir
parfait.
D'avance de ce côté-là.
Excellent.
Ce matin, la ville de Montréal qui a demandé à plus d'un million de Montréalais de réduire leur consommation d'eau potable dès aujourd'hui. On parle notamment de réduire l'arrosage au strict minimum, de prendre des douches plus courtes. La raison okay. de ça,
ouais, vas-y donc.
C'est que la réparation d'une conduite d'aqueduc de l'avenue Atwater, qui n'était pas prévue au calendrier, va devoir avoir lieu d'urgence. On parle d'une situation exceptionnelle.
Un tuyau de 60-70 ans, mais c'était pas prévu de le remplacer.
Non, c'est ça. On s'y attendait pas. Ah. On va commencer des travaux préparatoires sur la conduite dès cette fin de semaine, mais la réparation qui devrait durer plus de 6 semaines, ou du moins autour de 6 semaines. On parle de 16 des 19 arrondissements de la ville qui sont touchés par cette demande-là. C'est énorme.
Ouais. Ben, c'est sûr que on va se rappeler Monique Jérôme Forget la semaine dernière à l'Union des municipalités du Québec.
Vous avez raison, madame. On paye beaucoup d'impôts.
Ouais.
On paye toutes sortes de taxes.
Mm-hmm.
Ça coûte cher. Il faut payer.
Ben
le
oui.
monde dit qu'il y en a jusque-là. Malheureusement, il faut payer parce que nos enfants sont fait rien et vos enfants, vous êtes jeunes, vos enfants
ouais.
n'auront pas d'eau. C'est ça le défi. On n'a pas le choix. Ou on arrête de faire autre chose auquel on tient, ou on paye.
Ah ouais, à Montréal, comme à Québec. Ou on arrête de faire des pistes cyclables auxquelles on tient, ou on paye. Hey, l'argent est-tu mal investi? 418-971-1021. Là, je sais que ça se passe à Montréal, mais sachez, gang, là, qu'on est en retard de 5,5 milliards de dollars sur nos infrastructures d'eau à Québec. Fait que là, oui, on rit de Montréal encore avec leur gestion, mais ça va arriver à Québec, là, un moment donné. Là. Pis, ça s'en vient. Là.
Puis je vous rappelle que dans cette conférence de presse qu'on vient de vous faire entendre, qui a eu lieu il y a de cela deux semaines, ouais, aux assises de l'UMQ, on proposait aux municipalités de taxer davantage pour payer les infrastructures. Là, ce qui se passe à Montréal, on vient de donner le prétexte parfait aux municipalités,
ben oui,
au gouvernement de nous arriver et de dire « Regardez ce qui se passe à Montréal actuellement. Oui. On a une bonne raison de vous taxer davantage. »
Exactement. Mais on ne regardera pas ce qu'on a fait à Montréal pour en arriver là.
Non.
T'sais, parce qu'Elissa Despins nous l'expliquait aussi la semaine dernière, notre chroniqueuse en politique municipale. Les villes ont tout en main pour savoir ce tuyau-là, je te le remplace après 50 ans, ça va coûter combien? Après 60, 70 ans, 80, 90 ans? Puis c'est quoi mes pourcentages de risque? Ils ont tout ça en main. Donc, ce que les villes devraient faire, puis là, je vais prendre l'exemple de la ville de Québec avec 5,5 milliards de déficit, c'est qu'ils devraient dire, comme pour la dette. Pour la dette, il y a un plan. Bon, la dette, après X nombre d'années, il faut qu'elle soit 80 % de nos revenus. Après X nombre d'années, 70, puis comme ça, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de dette. Mais c'est un plan, vous comprendrez, qui est sur 35-40 ouais, ans, là. Bien, pour nos infrastructures, il faudrait faire la même chose avec les budgets qu'on a et dire, bon, bien, je prends tel montant puis je le mets dans mes infrastructures, puis ces montants-là, bien, je ne le mettrai pas ailleurs. Je ne couperai pas des rubans. Tu sais, je couperai pas un nouveau centre de curling à 39 millions. Je couperai pas un nouveau centre de volleyball. Puis là, vous comprenez que je fais exprès pour prendre des projets sportifs parce que le sport, c'est en moi. L'activité physique, c'est en moi. Mais quand même, l'eau potable, c'est un besoin essentiel. Le centre de curling, c'est le fun, mais c'est un besoin de luxe.
Mais pour s'assurer notre approvisionnement en eau potable, on va pas revoir notre manière de gérer les finances. Ce qu'on va dire, c'est « Hey, on n'a pas assez de finances pour les payer. On va vous en demander plus. »
Oui, et ça s'en vient, gang, la taxe sur l'eau. Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales, hier, devant la Fédération municipale, la Fédération québécoise des municipalités, ça, c'est les municipalités plus environnantes en milieu rural, a dit « Ouais, on pense vraiment installer des compteurs d'eau et mettre une taxe à l'eau. » Fait que là, vous allez avoir une taxe à l'eau. Vous allez avoir le gouvernement qui va dire aux municipalités « Hey, savez-vous quoi? Si vous augmentez vos taxes municipales de 1 % raison de l'eau,
nous autres,
on va vous donner 3 %. C'est le principe du 1 $ que vous allez chercher, on vous en donne 3. Fait que d'ici 5 ans, vous allez vous retrouver avec des compteurs d'eau puis avec une taxe additionnelle. Puis vous serez pas... Il n'y aura pas de meilleur service.
Non.
Puis il n'y aura pas de meilleure infrastructure prise en charge par votre municipalité. C'est indécent ce qui se passe à l'heure actuelle.
Je vous parle d'une situation qui a retenu l'attention ce matin, puis avec raison. Une drôle de comparaison, on va dire comme ça. Stéphane Lachance, chef de l'opposition municipale à Québec, puis vous en avez peut-être entendu parler, a fait un parallèle entre la situation des itinérants dans Saint-Roch et celle des moufettes qu'on capture avant de les éloigner en forêt.
Ah, OK. Rappelle-nous ce que Stéphane Lachance a dit.
Puis là, vous avez bien entendu, c'est dans le Journal de Québec. C'est bien ça la comparaison qu'on a faite. Je vais vous le citer. Si on fait juste tasser le campement, en parlant du campement d'itinérant, puis après ça, une semaine après, ils reviennent, puis ils s'installent à peu près au même endroit, on ne règle absolument rien. C'est comme si c'est une situation avec une moufette qui vient chez vous, puis qu'à un moment donné, tu veux régler le problème. Bien souvent, on va mettre un piège, on va les capturer, puis on va les relocaliser ailleurs, en forêt, loin de l'endroit où ils nuisent. C'est l'image qu'il a utilisée. Puis là, au cours de cette entrevue-là, il s'est repris en ajoutant. Bien sûr, je parle pas de cage avec les itinérants, bien évidemment.
Sûr.
J'ose espérer. Stéphane Lachance qui a réagi par communiqué ce matin en disant que son propos ne portait ni jugement ni comparaison sur la dignité des personnes en situation d'itinérance. C'était un raccourci verbal maladroit qui n'a pas rendu justice à sa pensée.
On a tellement une opposition faible à la Ville de Québec. Ça permet à Bruno Marchand vraiment d'avoir carte blanche à l'heure actuelle. Puis je le sais, vous êtes plusieurs à vous plaindre au 418-971-101 des décisions de Bruno Marchand, de sa façon de gérer la Ville. Mais la meilleure façon de garder justement un maire alerte et ne pas trop aller avec ses idéologies, c'est de faire en sorte qu'il y ait une opposition crédible devant lui. Et quand Stéphane Lachance, même s'il vient s'excuser, même s'il parle d'erreur de communication, vient faire un comparatif entre des itinérants et des moufettes, ben, il perd toute crédibilité auprès de l'administration Marchand et auprès d'une large partie de l'électorat, ce qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle, l'opposition municipale à Québec, faut qu'elle se ressaisisse. Et de la façon de se ressaisir, ça va être de changer sa garde rapprochée. Les personnes aux communications font vraiment pas leur travail pour que Stéphane Lachance dise ça dans une entrevue éditoriale où c'est pas en direct, c'est avec un journaliste qui fait un papier écrit après, puis qu'on trouve même pas le moyen de surprendre.
Non, c'est ça. Il y a moyen de dire aux journalistes, hey, regarde ce que je viens de dire, je me suis vraiment mal exprimé, on va mettre ça aux poubelles, on va reprendre, puis garde. Là, il a continué sur son idée en se reprenant, en disant, non, mais tu sais, je parle pas de cash sur les itinérants. C'est vraiment maladroit de sa part, puis c'est une comparaison boboche. C'est pas une bonne comparaison.
Exactement.
Je veux dire, puis là, il y a certaines personnes qui sont peut-être fans de l'opposition qui vont crier au mauvais traitement journalistique.
C'est pas un mauvais traitement journalistique,
donc,
il le dit.
On fait une entrevue avec Stéphane Lachance, puis on fait un gros titre avec ça, on veut faire un drame.
Avec le maire Marchand, on a fait le fucking fier.
Ben
fait
oui.
Qu'il y a pas de... T'es pensez pas que c'était cause de Stéphane Lachance. Non, non, non. Les journalistes du Journal de Québec, Thème Moala et Stéphanie Martin, au niveau de municipal, sont très droits. Et s'ils pognent une citation comme ça, que ce soit pour Bruno Marchand ou Stéphane Lachance, ils vont en mettre à la main.
C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être.
Exactement. Donc, 1,3 million, je le rappelle, de votre argent, cher contribuable, que l'opposition a comme budget. Donc là, ça presse, ça prend quelqu'un en communication qui est capable de faire la job, ça prend des conseillers politiques qui sont capables de faire la job. Et là, Éric Ralph Mercier comme conseiller politique, là, ciao, bye, là, il était mauvais comme conseiller municipal, il est aussi mauvais comme conseiller politique. Parce que l'opposition, pourtant, a de bonnes raisons d'attaquer.
Ben
là,
oui.
10 millions en mobilité durable avec les surplus. L'opposition n'a pas sauté dessus, aurait dû sauter dessus. Ce qui se passe en itinérance, on devrait arriver avec des solutions crédibles plutôt que parler de moufette. Donc, il y a énormément de dossiers autres que le tramway, je viens de nommer deux exemples, sur lesquels l'opposition pourrait travailler de façon proactive, augmenter leur crédibilité, puis devenir une alternative. Mais là, ça reste un groupe de militants qui en a contre le tramway, qui n'est pas capable de parler d'autre chose, qui est très malhabile dans ses communications. C'est très décevant pour nous, citoyens de Québec, parce que tu as besoin d'une opposition forte pour venir parler, là, justement, pour venir parler à l'encontre du maire, pour venir proposer des alternatives différentes, mais surtout crédibles. Circulation?
Oui, je veux juste terminer. La voie de gauche qui est réouverte. Je vous rappelle un incident sur Henri IV en direction sud à hauteur de chemin Sainte-Foy. Voie de gauche qui était fermée. Là, on a réouvert la voie de gauche, mais ça crée un méchant bordel. On parle d'un ralentissement qui remonte jusqu'à Capitale en ce moment. Sur la rive sud, c'est la même chose. Gros bordel là, sur la 20 direction ouest en ce moment. On avait une panne à hauteur de chemin des îles qui bloque la voie de droite actuellement. Ça remonte jusqu'à Monseigneur Bourget. Mm-hmm. Présentement, c'est du pare-choc à pare-choc, puis j'exagère même pas de ce côté-là, donc la 20 à éviter également. Capitale direction est à hauteur de Robert-Bourassa, c'est difficile. Leur ancienne direction sud pour prendre justement Capitale ralentissement dans le secteur et Capitale direction ouest à hauteur de leur ancienne léger ralentissement. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Pour terminer ma pensée, je suis très déçu à l'heure actuelle du travail de Bruno Marchand dans son deuxième mandat, surtout avec sa gestion de travaux sur le tramway et sa gestion du centre-ville de Saint-Roch. Mais je suis encore plus déçu présentement du très, très, très gros manque de crédibilité dans les propositions de l'opposition officielle, c'est-à-dire respect citoyen. On termine, on en jase de façon spéciale après cette courte pause. Gab Marino vient s'installer avec nous. On parle du spectacle de Luke Combs en fin de semaine au Parc Jean-Drapeau. Midi 48 minutes. Retour de Gravel qui va suivre avec Denis. Audrey Véro, notre prochaine invitée, va y participer également parce que c'est son top de sport les lundis et vendredis. Dans le retour avec Denis Gravel, évidemment, Véro Nouvelle va suivre les développements, ce qui a trait à cette entente entre les États-Unis et l'Iran. Ça doit être la 8e fois en 2 jours qu'on nous dit « ça va être signé ». Ça doit faire la 60e fois depuis que le conflit est commencé qu'on dit « hey, ça y est, c'est réglé » ou que Trump nous dit « je vais anéantir l'Iran ». Bref, le jour de la marmotte. Il va animer ce soir au Centre Vidéotron le match numéro 5 entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline. Il est notre expert en musique New Country. On a le bonheur d'accueillir Gab Marino en ondes à l'émission d'En Jase. Gab, comment vas-tu?
Salut, ça va bien les boys?
Ça va super bien. Puis à soir, t'es-tu confiant? Moi j'ai dit 5-3 Canadiens. Il l'étire.
Ça serait le fun.
Petit Claude est mort. On va donner un gros coup. J'ai dit 4 buts en deuxième période, 2 de Demidov. Puis, ah ouais, on retourne à Montréal.
Moi, pour moi, le match d'asseoir, là, les 10 premières minutes vont faire foi de tout. Tu vas le savoir clair, après hein? 10 minutes si. Puis pareil comme la dernière game, parce que clairement, après la première période, c'était correct. On avait... Les gens n'avaient vu assez. On
après 5 minutes, c'était 7-0 les tirs pour les Hurricanes. Je me disais, OK, c'est une question de temps.
Avec les Hurricanes score, tu veux
c'est
dire.
C'est ça, oh oui.
Puis c'est ça. Donc, tu sais, parce que les Hurricanes ont marqué toujours le premier but. Mais les Canadiens ont réussi à remonter puis à forcer des prolongations. Puis sinon, bien évidemment, match 1, ils ont répliqué assez rapidement. Mais s'ils marquent le premier but pour une fois, peut-être que là, il y a quelque chose. Puis les Hurricanes, eux, ils jouent comment quand ils tirent de l'arrière? Pas nécessairement très bien. C'est pas arrivé beaucoup depuis le début des séries. Canadiens, c'est que historiquement, depuis le début de la saison, quand ils tirent de l'arrière, on avait comme le feeling que ça se pouvait encore. Puis les gars, ils croient puis ils l'ont fait souvent. Hein, c'est quoi, c'est 31 retours de l'arrière depuis le début de la saison?
C'est souvent, même en saison.
C'est le plus grand nombre dans la Ligue nationale.
Mais ça, c'est épuisant.
Ben oui.
Là, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a plus de jus dans le tank.
Ah, puis ah, les gars, ils sont plus capables. Non, plus,
non, on n'a pas l'impression. Dire, en tout cas, ben,
fait, dans face de Suzuki et Caulfield en troisième, on voyait du désespoir au dernier match.
Fait que si les 10 premières minutes sont le fun, on pourrait avoir une belle soirée. Fait
en effet.
Mais tu sais, c'est ça. C'est sûr que... on ne s'attend pas à ce qu'ils se rendent en finale de la Coupe, par exemple.
Ouais. Mais le problème, c'est pour scorer le premier but, faut tirer au but.
Oui. Le Canadien n'a jamais... Ben, là, ça paraît tellement pire que ce que ça a été. Mais tout le long de la saison, le Canadien n'a pas outshoté leur adversaire souvent.
Mais là, c'est pire que pire.
Oui, exact.
En série, il y a seulement le match de 6-2 à domicile contre les Sabres qui ont eu plus de lancers que l'adversaire.
C'est ça, hein? Exact.
Sinon, ils ont toujours été en dessous.
Puis, à la limite, c'est une philosophie d'équipe à laquelle je suis pas nécessairement contre parce que ça a porté ses fruits. Puis Martin Saint-Louis, je veux dire, à chaque fois que je me posais des questions sur « Ah ouais, il fait ça de même », il avait raison. Mais parce que je pense que ce qu'il fait, c'est on préfère la qualité à la quantité.
Ouais.
Parce que tu as un lancer de la bleue avec aucun écran devant le gardien, les chances que ça rentre sont excessivement faibles. Mais si tu as une passe de plus avec des joueurs talentueux comme ceux-là, bon, là, finalement, tu réussis à créer quelque chose. Tu n'as pas beaucoup de lancers, mais tu as des buts, des chances de qualité. Sauf qu'en série contre les Hurricanes, le pire, c'est que là, l'autre équipe le sait que c'est ça que tu fais. Là.
C'est ça.
Combien de fois, dernier match, tu avais un joueur qui s'enlignait pour avoir une belle chance de marquer, pas pire? Puis il a fait une passe.
Ben oui.
Puis les Hurricanes le laissaient aller au but, là. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire la passe quand même.
Oui, les
ont coupé
Hurricanes
la passe.
Sont positionnés déjà le bâton dans l'angle de la passe. Fait,
mais en alors, tout cas, nous, on le sait ici, au 815 de Bourneuf, au cinquième étage, avec nos trois bedaines. D'après moi, Rod Brind'Amour le sait.
Puis les Kings jouent très bien la ligne bleue aussi. On bloque beaucoup la ligne bleue. On laisse pas d'espace.
C'est
meilleur.
Plate que Gallagher soit pas là.
Ah, je trouve ça moi, plate, moi aussi.
C'était le move que je trouvais qui était très important.
Tu manques de respect en même temps pour sa carrière?
Ça a déjà été le cas. Fait que là, empiré ou pas, je sais pas.
Ouais.
Ceci étant dit, parce que mon problème avec cette décision-là, c'est que quand il l'avait inséré dans l'alignement, ça avait porté ses fruits.
Ben oui, c'est ça!
Il y a
ça.
Un précédent que ça marchait. Fait que je comprends pas pourquoi ça aurait marché avec le Lightning, mais que ça marche pas avec les Hurricanes.
Moi non plus.
Celle-là, va falloir me l'expliquer. Ceci étant dit, à chaque fois que j'ai questionner une décision de Martin Saint-Louis, il me l'a mis dans les dents parce qu'ils ont vraiment bien joué puis la décision, finalement, c'était la bonne. La fois que Kirby Dach est resté dans l'alignement, il a fait 3 points.
Ouais, mais là, on parle de Joe Veleno qui n'a pas scoré de l'année.
Je sais, mais puis tu sais, j'ai rien contre Joe Veleno, c'est ça le problème. C'est juste que Gallagher, c'est ce qui manque à l'équipe présentement.
En effet.
Mais Veleno amène ça aussi, mais t'as pas l'aspect émotif de il a joué quasiment 1000 games avec l'équipe.
T'as entièrement raison à 100%. Hey Gab, on t'a amené également pour nous parler de New Country parce que cet artiste Luke Combs est à Montréal, parc Jean Drapeau, 2 soirs, vendredi et samedi. Parle-nous du phénomène Luke Combs.
C'est présentement un des 2 tops à Nashville, et ça a toujours été historiquement ça. T'sais, une compétition entre 2 gars, parce que en 2010, c'était Luke Bryan, Blake Shelton. Dans les années 90, c'était Garth Brooks, c'était Alan Jackson, c'était ces gars-là qui tiraient. Puis là, c'est Luke Combs et Morgan Wallen. Et l'affaire, c'est que Luke Combs est sur ton épaule gauche, le petit ange qui te dit « Non, non, prends les bonnes décisions dans ta vie. » Puis Morgan Wallen, c'est le petit démon à ta droite qui dit « Non, non, sois fou, là, t'as juste une vie à vivre. Ah ouais, fais des niaiseries. » Puis cette dualité-là est comme, tu sais, efficace présentement. Tu peux aimer les deux. Il y a une compétition, mais pas vraiment entre les deux. Mais Luke Combs est le « good guy » de Nashville et le gars sympathique, le gars qui prend des décisions. Une fois... Ça y est arrivé, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote-là. Il était en show à Bangor, dans le Maine. Il y a plusieurs Québécois qui avaient fait la route. C'était à 4 heures de route. C'est un bel amphithéâtre. Et ce soir-là, il arrive sur la scène. Il disait « Je suis désolé, ma voix n'est pas tout à fait top aujourd'hui. J'ai comme un shot dans la gorge. » Fait que Malheureusement, je vais faire le show, là, mais je vous rembourse tous vos billets.
Ben voyons donc, c'est pas vrai.
Puis il a fait le show, puis tout le monde était remboursé, puis les gens qui étaient là disaient...
Mais le monde ont trippé.
Le show t'es cœur, hein? On a vu aucune différence avec d'habitude. C'est tellement un interprète exceptionnel, ça c'est d'ailleurs sa grande force, que même à 95%, ben même à 80%, ça sonne bien. Mais il a remboursé tout le monde. Puis tu sais, ça, c'est le genre de décision que Luke Combs prend. Il tient à ce qu'il y ait des billets pas chers dans chacun de ses shows aussi.
C'était combien là pour le parc Jean-Drapeau en fin de semaine?
Là, c'était 179 admission générale.
OK.
Là, c'est pas comme si...
Non.
Mais dans cette catégorie-là, honnêtement...
Quand même, hein?
Tu vois, le même show de Morgan Wallen, qui est sans scrupules, c'est 300, là.
OK.
Admission générale. Parce qu'en plus, le show commence à 5 heures. Pas de Luke Combs, là.
Ouais.
Mais c'est un mini-festival, là, ce qui se passe.
Wow, non, mais
c'est que ça commence à 5h avec Thelma et James. Ensuite de ça, t'as Ty Myers, qui est un artiste de 18 ans, qui est vu comme une future superstar. T'as Dierks Bentley, qui est en première partie, puis juste lui, c'était la tête d'affiche de l'asso il y a 3 ans. Puis t'as Luke Combs après ça.
Magique.
T'as beaucoup à te mettre sous la dent en fin de semaine. 65 000 personnes au Parc Jean-Drapeau.
Wow. Il reste encore des billets?
À soir, oui. Surtout qu'il mouille, là, fait que ouais. C'est pas, ça vend pas fort.
Demain, par exemple.
Demain, c'est sold out depuis le jour 1. Et c'est ça l'idée,
wow.
C'est que quand ça a été annoncé, de 1, moi je disais, peu importe ce qui arrive, on savait pas ce qu'il allait avoir au Festival d'été, on savait pas ce qu'il allait avoir à Lebinière, à Saint-Tite. J'ai dit, peu importe ce qui arrive, c'est le plus gros show de l'année au Québec, c'est celui-là. Puis tu te mets ça à pré-vente, et là, les gens reçoivent un code, puis en samedi, c'est 45 000 billets, ça s'est vendu en claquement de doigts. Ouais. Fait qu'ils ont dit, ben on a vendu 45 000 billets, puis on a des gens sur la liste d'attente qui sont inscrits. Fait qu'on va ouvrir le vendredi aussi. Ils ont ajouté une date. Celle-là n'est pas sold out. On s'est pas rendu. La météo n'aide pas aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est quand même le fun de le voir. Il fait comme 25 villes dans le monde cet été. Puis Montréal a été choisi.
C'est capoté, ça.
Puis ce que j'écrivais hier sur Facebook, c'est des catégories de shows comme ceux-là puis d'artistes majeurs comme lui. On sait pas quand ça va revenir. C'est plus comme avant.
Mm-hmm.
De plus en plus, les artistes font des résidences à différentes places.
C'est vrai.
Tu sais... Harry Styles fait 30 dates au Madison Square Garden l'automne prochain. Lui, il est assez big pour qu'il dise « Moi, je vais pas voir les fans viennent à moi. »
Vont venir à
ça,
moi.
C'est de valeur pour des marchés comme nous. Puis Montréal, c'est pas Québec, mais c'est relativement accessible pour nous d'aller
en
faire
effet.
La route puis d'aller le voir. Fait qu'il faut pas passer à côté de ça. Puis si vous étiez là au CIE Plaine ou au Centre Vidéotron, c'est sûr que vous êtes là encore à soir, je pense.
Cool, merci.
Et puis demain.
Merci, Gab Marino. En terminant, c'est le retour de la zone New Country à Weekend Radio?
Oui, ça tombe bien. Hein? J'avais demandé ça à Luke Combs.
Ben oui.
Dit, écoute, nous, on recommence le 1er juin. Si tu fais un show le 30 mai, ça ferait comme bien.
Ce serait un bon timing.
Ouais. Okay, tu vas parler de ça sur les ondes de Weekend.
Ouais,
t'es là samedi, toi, vu que t'as mon centre vidéo ton vendredi?
Attends, qu'est-ce que tu veux dire?
Luke Combs?
Oui, je suis là samedi,
t'es
t'as
là
raison.
Samedi,
oui,
c'est ça.
Je suis là demain.
Puis la zone New Country, c'est du lundi au vendredi.
Ouais, on le ramène l'été à 18h. Vous voulez un peu de country, c'est tout l'été du lundi au vendredi. Puis
nice.
C'est ça, la semaine prochaine, on reçoit les artistes du Québec avec nous. Ils viennent en studio de chiller. On prend une bière, on parle,
wow.
Puis ils nous font des covers. Tu sais, Fred Dion, Zach Chico, Francis de Grand Prix vont être là, Vince Lemire. Tu sais, les artistes qui font les tournées des festivals, ils vont venir nous voir la semaine prochaine. Fait que ça va être une belle semaine.
Incroyable, ouais. À ne pas manquer à 18h au 91.9 Weekend Radio, notre station. Gab Marino.
Hey, n'importe quel, boys.
Bonne animation ce soir au Centre Vidéotron. Bon show de Luke Combs samedi. Matt Turcotte, bonne fin de semaine, mon ami. Amuse-toi bien. On se reparle lundi.
Yes, sir. Bonne fin de semaine.
Salut,
tout le
guys.
Monde.
Le retour de Gravel s'en vient à l'instant.
Gravel dans le retour débarque dans quelques minutes à Boulevard 102.1.
La saison estivale est enfin.